séance de ce cycle sur les couleurs, hein, ce que je vous propose peut-être, en éteignant la lumière, c'est de commencer par vous refaire un petit peu un point sur ce qu'on a vu la dernière fois. Parce que...
On n'avait pas fait la quatrième partie.
Voilà, exactement. Et puisque la dernière fois, c'était il y a 15 jours, et même un peu plus, que 3 semaines, il y a eu les vacances entre-temps. D'ailleurs, certains ne sont pas encore revenus de vacances et m'avaient prévenu qu'ils ne seraient pas là cette séance-là. Puis alors, les vacances, on n'est pas obligé d'avoir toujours en tête ce qu'on a fait précédemment. Je me suis dit que... Ah oui, bah, j'espère bien, mais bon. Voilà, parfait. On va quand même faire un petit point, simplement pour qu'on se remette en tête un peu les choses. Hein. Alors, je passe très vite sur nos règles, vous avez l'habitude, et je vais directement à la première partie, qui a pour but justement de vous proposer de faire un petit point, un petit résumé sur ce que l'on avait vu précédemment. Alors, vous rappelez qu'on a parlé, là c'est moi qui pendant 5 minutes vais vous dire ce qu'on avait dit, hein, grosso modo, la dernière fois. On avait parlé la dernière fois de la question des couleurs dans un certain nombre de cultures. Il n'est pas question de les voir toutes, mais d'avoir un certain nombre de points d'accroche par rapport à des cultures particulières. Au niveau de la préhistoire, vous vous souvenez, je vous avais montré aussi bien la grotte Chauvert, voilà, comme ça, et cette peinture, la grotte de Lascaux. On avait vu comment les couleurs majoritaires étaient le rouge et le noir. On avait montré d'ailleurs que ces couleurs étaient relativement ambivalentes. Hein. Après tout, le noir, c'est à la fois une couleur qu'on pourrait qualifier de favorable et de défavorable. Hein. Le noir, c'est à la fois quelque chose qui a trait à justement au noir dans ce qu'il a de terrifiant, dans la peur qu'il peut générer. Mais en même temps, c'est le noir fécond qui permet, au contraire, de façon favorable d'aller vers autre chose. Et finalement, le rouge est un peu équivalent. On avait d'ailleurs qualifié le rouge de feu et de sang à la fois, hein, quelque chose qui donne la vie, mais quelque chose qui la détruit aussi. Bref, dans ces deux couleurs-là, qui sont à fait couleurs un peu subies, on avait vu qu'après tout, il n'y avait pas forcément le choix, il n'y a pas beaucoup de magasins de couleurs, si vous voulez, à la préhistoire. Hein. Et donc, ce sont des couleurs qu'on a parce que c'est peut-être ces matières-là que l'on a le plus facilement, mais on a vu aussi que ça correspondait sans doute à un choix, parce qu'il y a des couleurs qu'on aurait pu avoir, qu'on n'a pas utilisées, et des couleurs qui peut-être correspondent assez bien au monde chthonien, au monde souterrain, finalement, qui est celui dans lequel ces peintures sont réalisées. Après avoir évoqué rapidement la préhistoire, on avait parlé, vous le rappelez, de l'Égypte ancienne, et on avait là aussi travaillé un peu sur les couleurs, en montrant par exemple comment le bleu était dans l'Égypte ancienne, et après tout l'Égypte c'est la grande civilisation ancienne du bassin méditerranéen. On avait montré comment le bleu était une couleur très favorable, hein, parce que c'est la couleur que l'on octroie à l'eau, et en particulier au Nil, et en particulier aux animaux qui sont dans le Nil, et en particulier aux hippopotames, qui évoquent la déesse Touéris qui sont dans le Nil. Donc le bleu est une couleur qui évoque l'eau et qui évoque quelque chose de tout à fait favorable et positif. D'où le fait que la couleur bleue dans la culture égyptienne est une couleur qui porte bonheur, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est celle majoritairement des Jouchepti ou des Chapwapti, hein, vous rappelez, ces serviteurs funéraires dont je vous remontre ici un exemple. Mais on avait vu que d'autres couleurs avaient également un rôle, une place dans la culture égyptienne. Le vert, qui d'ailleurs est, si j'ose dire, la conséquence du bleu, hein, en ce sens que c'est le bleu qui permet à la nature, enfin l'eau, bleu, qui permet à la nature verte de pousser, d'où le côté tout à fait favorable du vert. Et il n'est pas étonnant de voir Osiris, qui est ce dieu mort mais ressuscité, qui soit justement affublé de la couleur verte, précisément, parce que, comme une plante, finalement, il renaît, il revit après la mort. Osiris, qui est là représenté d'ailleurs sur un fond blanc, et en blanc en même temps qu'en vert, parce que le blanc est une couleur dont on avait vu qu'elle était celle, en gros, de la pureté, etc. Le blanc, c'est assez pratique. C'est une couleur qui, dans toutes les civilisations occidentales, n'a jamais vraiment changé, j'allais dire, d'idée. Hein. Toujours une couleur qui évoque l'idée du blanc, de la pureté, etc., de la neutralité, l'innocence, etc. On avait vu aussi que le noir était une couleur plutôt bien considérée dans l'Égypte ancienne, en particulier parce qu'elle est par exemple celle d'Anubis, qui est le lieu de le dieu de la mort et de la renaissance. Donc le noir n'est pas forcément une couleur qui amène vers le bas, mais au contraire une couleur qui finalement est assez favorable dans cette culture-là. On avait remarqué aussi comment le rouge était une couleur très prédominante dans l'Égypte ancienne. En ce sens, ça reprend, je dirais, les postulats qu'on a vus dans les cultures de la préhistoire. Hein. Le rouge est une couleur très, très présente. On a vu d'ailleurs que dans les peintures égyptiennes, tous les hommes étaient toujours représentés en rouge et souvent les femmes le sont en jaune. C'est d'ailleurs le cas sur la peinture que je vous montre là. Et puis on avait enfin terminé en regardant un peu la Grèce antique. Et on avait vu que, et ça ne nous a pas étonné plus que ça, que les deux couleurs noire et rouge sont également deux des couleurs, j'allais dire, essentielles de la culture de la Grèce ancienne. D'ailleurs, la céramique commence à être à figure noire sur fond rouge, puis à figure rouge sur fond noir. Vraiment, le noir et le rouge, je le disais une autre fois, sont les deux mamelles de la couleur de l'Antiquité grecque. Les autres couleurs étant finalement beaucoup plus rarement utilisées, je vous avais montré, vous rappelez, cette rare peinture, où le rouge est d'ailleurs très présent, le bleu l'est, mais un petit peu de manière secondaire, tout ça sur un fond blanc, toujours le blanc qui est cette couleur plutôt favorable et au sacré, à la pureté, etc. D'ailleurs, et ça je ne vous l'avais pas montré, mais je vous avais dit que je vous la montrerais, ça c'est une autre rareté, c'est un élément de la tombe du plongeur de Paestum, dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est une des rares peintures grecques antiques, hein, aujourd'hui conservées. Je vous en avais montré une autre, mais plus tardive, hein, d'époque hellénistique. Et cette peinture-là, qui a été trouvée en Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie du Sud, à Paestum, c'est pas très loin de Pompéi, hein, et qui date du début du 5e siècle avant notre ère, montre la même chose, c'est-à-dire vraiment l'omniprésence du rouge. Hein, le rouge est décidément une des grandes couleurs des cultures antiques, c'est le cas en Grèce, on l'a vu, mais également du blanc, qui est, je le redis, hein, la couleur à la fois du sacré, de la pureté, etc. Et vous voyez comment le bleu, ben, il existe, mais il est un peu limité. Hein. C'est un peu un support, un faire-valoir. C'est une couleur qui existe, mais qui n'a pas, j'allais dire, une emprise très, très considérable. Par parenthèse, puisqu'on n'avait pas parlé de ça, la tombe du plongeur, ce que vous voyez là, est donc le côté d'une sorte de cuve funéraire. Hein. La tombe du plongeur, c'est quatre dalles de pierre, hein, deux longues, deux qui le sont moins, et qui donc entouraient une sorte de caveau funéraire. C'est donc les parois intérieures de ces dalles de pierre qui sont peintes, et donc au milieu était le corps. Et sur ces dalles sont représentées des scènes de comas. Les comas sont des banqueteurs, si vous voulez. Hein. Et les banquets dans la Grèce antique ne sont que masculins. Hein. Donc vous voyez des convives qui sont là, qui s'amusent bien. D'ailleurs, vous en voyez un là, qui est en train de jouer avec sa coupe. Ça, c'est un grand jeu dans les banquets de la Grèce antique. On prenait une coupe que l'on mettait comme ça sur son doigt, on la faisait tourner. Le grand jeu était de l'envoyer dans la coupe d'un collègue. Comme ça, le vin qui était, je veux dire, le support, hein, de ces banquets, évidemment, explosait dans la tête de l'autre. Hein. Je pense qu'il s'apprête à l'envoyer dans la coupe de celui-ci. C'est un des grands jeux, des grands amusements. On le voit très souvent, hein, sur les représentations de ces banquets de la Grèce antique. On a vu également comment, finalement, notre documentation concernant la couleur dans la Grèce antique était quelquefois assez courte. Hein. On le voit bien, évidemment, par cet exemple. Hein. Voilà la sculpture que l'on voit aujourd'hui du temple d'Athéna à Phaïa à Égine. Elle est exposée à la Glyptothèque de Munich aujourd'hui, mais c'est une sculpture tout à fait blanche, mais qui, à l'origine, était peinte. Et à gauche, vous avez donc la restitution des peintures de la sculpture en question. Par parenthèse, vous voyez dans cette restitution que le bleu est toujours une couleur de support, une couleur de faire-valoir. Le bleu est assez peu, tout comme le vert d'ailleurs, dans la Grèce antique, une couleur utilisée en soi, si j'ose dire. C'est plutôt une couleur support, une couleur qui souligne, on l'a vu dans la tombe des plongeurs, qu'une couleur, j'allais dire, fondamentale, qui structure une composition. Voilà rapidement, je crois, ce qu'on avait vu la dernière fois. Je n'ai fait là que résumer, un peu vite, hein, ce que l'on a dit la fois dernière. Alors, puisque la fois dernière, nous n'avions pas vu la quatrième partie qui concerne l'Antiquité romaine, eh bien, on va la voir aujourd'hui. On va donc commencer par ça. Je vais vous montrer toute une série de diapositives qui évoquent des questions de couleur qu'on va travailler ensuite sur l'Antiquité romaine. Et puis après, on commencera, dans la deuxième partie de cette séance, à travailler sur le Moyen-Âge, qui va nous occuper dans la deuxième partie de cette séance et la séance prochaine, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur la question de la couleur au Moyen-Âge en Occident. Et je pense qu'une séance et demie ne seront pas trop pour tenter d'épuiser le sujet. Mais je voudrais déjà qu'on regarde quelques diapos concernant l'Antiquité romaine et que l'on voit comment parfois la couleur est traitée. Je commence par vous montrer quelques vues et après on aura à les commenter. Hein. Voilà la première, une deuxième, une troisième. Voilà, quelques vues que maintenant on va revoir, hein, commenter, sous l'angle de la couleur. Mais avant d'aborder directement l'angle de la couleur, je voudrais à chaque fois qu'on essaie quand même de voir de quoi il s'agit. On l'avait fait la dernière fois, je pense qu'avant de rentrer dans le sujet de la couleur, il faut déjà savoir ce qu'on a sous les yeux. Alors qu'est-ce que c'est que l'objet que vous avez sous les yeux d'abord ? Bon, c'est une mosaïque, hein, c'est une mosaïque. Une mosaïque, c'est, rappelez-moi quand même ce que c'est en gros. Voilà, c'est avec des petits tessons, on appelle ça des tesselles précisément. Hein. Un tesson, c'est plutôt des fragments d'une céramique par exemple. Des tesselles, c'est des petits cubes qui permettent de réaliser une céramique. En général, c'est en quelle matière ?
En marbre.
Alors voilà, marbre. En pierre, en marbre. Hein. Pierre, marbre, souvent. Quelquefois, il peut y avoir d'autres matières, par exemple. Du verre, parfois il y a du verre, effectivement. Hein. Voilà, quelquefois de la terre cuite, effectivement. Hein. On peut utiliser de la terre cuite, mais le gros des mosaïques, c'est en marbre. Le marbre, c'est là l'élément privilégié, d'autant que, puisque ce sont des petites tesselles de pas très grande dimension, les mosaïques pouvaient se servir chez les sculpteurs de marbre, hein, qui évidemment ont remplacé des sèches. Si hein, voilà. Mais on peut utiliser également des pierres, ils ne sont pas du marbre, ou bien, d'autres fois, vous avez de la céramique ou du verre. Bien. Donc voilà une mosaïque. Qu'est-ce qu'elle représente ? Un chien. Un chien de garde. Vous la connaissez, hein, cette mosaïque, elle est célèbre. Café Canel, effectivement, ce qui veut dire... Voilà. Hein. Alors, on comprend, évidemment, je crois assez bien ce que veut dire cette mosaïque. Hein. Attention au chien. Vous savez d'où elle provient, cette mosaïque ? Pompéi, effectivement. Elle est d'ailleurs toujours en place, hein, à l'entrée d'une maison. Hein. Je pense qu'on comprend assez bien à quoi cette mosaïque servait. Hein. Évidemment. Hein. C'est l'équivalent de nos panneaux actuels, chien méchant, que vous voyez dans nos villes modernes. Bien. Ce n'est pas d'ailleurs le seul car il y a à Pompéi d'autres exemples équivalents. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire en termes de couleurs concernant cette mosaïque ? Ce qui suggère quoi par rapport à ces couleurs-là ? Et notamment peut-être à la plus prégnante d'entre elles ? Le noir. Hein. Donc ce qui veut dire quoi par rapport au noir, justement ? Voilà. Hein. Ce que ça veut dire, c'est assez clair, hein, que le noir est a priori une couleur plutôt... Enfin, je dis, on se méfiait, hein, pas très favorable, hein, oui.
J'ai vu dans les dits, chien bizarre.
Chien bizarre. Bon, comme c'est bizarre. Pour reprendre une réplique célèbre. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on a là une mosaïque avec un conseil qui est donné, hein. Il faut faire attention au chien, et le chien est noir, donc c'est, on va dire que ça n'est pas très engageant, d'une certaine manière. Donc voilà le cartel, la correspondance, une mosaïque du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, provenant donc effectivement de mon pays où elle se trouve. Et si je vous montre ça, c'est du grec. Alors j'ai traduit parce que voilà. Alors, d'abord, quel est l'objet que vous avez devant vous, là aussi ? Toujours une mosaïque. Hein. Bien. Une mosaïque qui représente quoi, cette fois ?
Un squelette.
Un squelette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est bien vivant. Il est bien vivant. Et qu'est-ce qui montre qu'il est bien vivant ?
Il mange.
Voilà, il mange.
Il boit.
Hein, il a... voilà. Il vous rappelle quoi, d'ailleurs ? Confortablement installé, où il est... Pardon ? Eh bien voilà, ça nous rappelle le banquet de tout à l'heure. Rappelez la tombe du plongeur de Pestum que je vous ai montré. Hein. Alors, la tombe du plongeur de Pestum date du 5e siècle avant Jésus-Christ, une tombe grecque. Là, on est plutôt... Enfin, on est 5 siècles après, si vous voulez. Hein. On est donc plutôt au 1er siècle. Bien. Si vous voulez, c'est la même idée. C'est-à-dire, c'est un banquet. Le personnage est en train de banqueter tranquillement, sauf qu'il n'a plus beaucoup de chair. Si vous voulez, c'est un squelette. Bon. Mais l'inscription, encore une fois, est là, qui dit décidément « Soyez joyeux, profitez de la vie », grosso modo. Hein, on peut à peu près traduire l'inscription de cette manière-là. Qu'est-ce que ça peut dire par rapport à la question de la couleur? Là aussi, je dirais, la plus prégnante et majoritaire de cette mosaïque. Voilà, qui est noire. Hein. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à cette mosaïque et par rapport à celle qu'on a vue précédemment? Alors, effectivement, hein, donc on voit que le squelette est lié à la mort, effectivement, et donc que le noir est lié aussi à la mort. Ça, on va dire que ça va... Par rapport à la mosaïque précédente, qu'est-ce que ça vous suggère? La mosaïque précédente représentait, vous vous rappelez, un chien, et on nous disait qu'il ne fallait pas trop s'approcher. Hein. Pardon? Alors voilà, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est à la fois le contraire et la même chose. C'est la même chose parce que c'est un squelette. Donc un squelette, c'est pas super favorable. Moi, j'ai rien contre les squelettes. Enfin bon, voilà, on aime bien vivre quand même. Hein, bien. Donc il y a effectivement quelque chose d'un peu défavorable, comme le chien tout à l'heure. Le chien, il était noir, pas très engageant, et on lui disait, en gros, n'approchez pas, il y a un chien méchant. Le noir était donc là lié à quelque chose de défavorable. Il est toujours là parce qu'il est lié à un squelette, d'accord? Mais vous voyez en même temps que ce squelette n'est pas du tout un squelette décharné qui s'ennuie dans une fosse. Il est au contraire là, qui vit bien, il est tranquille. Quelqu'un l'autre jour disait, pour une autre chose, qu'il est cool, n'est-ce pas? Il est cool, ce squelette. Il est en train de boire et de manger, de banqueter tranquillement. Donc vous voyez, effectivement, que certains d'entre vous le disaient, c'est l'inverse. Autrement dit, le fait que ce soit l'inverse, qu'on ait une mosaïque, ou deux mosaïques en l'occurrence, qui nous montrent que le noir peut évoquer une chose et l'autre, qu'est-ce que ça vous suggère par rapport à cette couleur? Pardon ? Voilà, une ambiguïté, une ambivalence. C'est-à-dire qu'il faut voir que dans le regard que l'on a sur les couleurs, hélas, rien n'est simple. Et vous savez que dans la vie, rien n'est simple. Hein. Parce qu'on pourrait se dire, oh ben finalement, quand on travaille le sens des couleurs, c'est pas très compliqué, on va dire que telle couleur c'est bien, telle autre couleur c'est mal, qu'une couleur veut dire une chose, qu'une autre couleur veut dire autre chose, et ben c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des ambivalences. Le noir dans l'Antiquité romaine peut avoir les deux sens. Hein. Là, vous voyez donc cette mosaïque, je vais vous passer la légende, hein. Cette mosaïque romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a été trouvée il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, au Moyen-Orient, représente donc un squelette sur fond noir. Alors, à la fois, c'est pas gay, mais ça l'est complètement, parce que ce squelette, il a se marie un bon coup, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a donc une ambivalence, si vous voulez, de cette couleur. D'ailleurs, pour en terminer avec ce noir ambivalent de l'Antiquité romaine, il faut savoir par exemple qu'on aime beaucoup, et cette peinture murale de Montpellier montre, on aime beaucoup, notamment au 1er siècle, utiliser le noir dans son intérieur, dans les peintures murales. Voilà une peinture murale où le noir et le rouge interviennent. Il y a beaucoup de noir, mais il y a mieux encore, si j'ose dire. Voilà une peinture carrément noire. Hein, ça ne gêne personne. Au 1er siècle, l'Antiquité romaine de vivre dans une pièce complètement noire. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gens qui vivent dans des pièces noires. Hein. Dans l'Antiquité, ce n'est pas un problème. Hein. On peut lire dans une pièce noire. Hein. Donc vous voyez que la vision qu'on a du noir, qui pour nous est quand même très largement... pas toujours. Hein. Je vous rappelle que deux d'entre vous avaient choisi le noir au début de nos séances. Hein. Donc le noir n'est pas non plus une couleur complètement plombée. Mais quand même, elle est plus. Hein. Il y a eu deux personnes sur une 45e. Hein. Donc dans l'Antiquité romaine, le noir n'est pas une couleur simplement défavorable, mauvaise, désagréable, pénible. C'est aussi une couleur dont on peut s'entourer. D'ailleurs, le comble du chic, c'est d'avoir des sculptures en pierre noire. Hein. Et d'ailleurs, c'est très cher. Hein. Voilà un exemple hein, d'une sculpture en pierre noire qui date du 1er siècle. Alors là, si vous avez ça chez vous, c'est la classe. Hein. La pierre noire, en plus, c'est des pierres, c'est des marbres rares, etc. C'est tout à fait bien vu. Bien. Deuxième œuvre que je voulais vous montrer. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui.
La peinture murale.
Voilà, oui. Alors effectivement, c'est. Alors d'abord, c'est une peinture murale. Hein, effectivement, c'est une peinture murale qui représente effectivement un jardin. Et peut-être le jardin, vous savez.
La femme de l'empereur Claude.
Alors, oui, pas Claude. Livia, mais, c'est Livy. Voilà, c'est Livy, effectivement. C'est une peinture de la maison de Livy, à Rome, hein, qui représente effectivement un jardin. Hein. Là, il y a, grosso modo, deux couleurs fondamentales et majoritaires.
Le bleu et le vert.
Bon. Et là, ça ne nous étonnera pas. Le bleu, il est là pour représenter. Le ciel, ouais. Et le vert, elle a représenté voilà, hein, la végétation, la nature, etc. Rien qui ne nous étonne vraiment. Hein. Ces peintures montrent d'ailleurs que finalement, dans l'Antiquité romaine, et donc je donne là le cartel, hein, mais finalement le bleu et le vert, chez les Romains, ont un peu la même place que chez les Grecs, c'est-à-dire une place un peu subalterne, si vous voulez. On l'a vu hein, dans l'Antiquité grecque, le bleu existe, mais pas beaucoup. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous l'avais dit d'ailleurs, un certain nombre de chercheurs, notamment du 19e, se sont demandé si les Grecs n'avaient pas des problèmes de vision, tellement il y a peu d'éléments bleus ou verts dans la peinture grecque ou dans les objets grecs peints. Si vous voulez. Le bleu et le vert existent, mais très peu. Et il y a eu des traités tout à fait sérieux, hein, de grands savants, qui se demandaient si les Grecs voyaient vraiment les couleurs. Hein. Entre-temps, il a été démontré que ce n'était pas possible qu'on ne voit pas bien les couleurs, mais il y a eu des gens pour écrire des bouquins là-dessus. Hein. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment une problématique. Mais ça vient du fait que le bleu et le vert ne sont pas, et en particulier le bleu, des couleurs très, très, très importantes, et même pire que ça. Alors, non, mais qu'est-ce qui fait, par exemple, que le bleu n'est pas une couleur très bien vue? Est-ce que vous avez des éléments qui peuvent vous mettre sur la piste de ça? Du fait que le bleu ou le vert, mais commençons par le bleu, et puis ce sera plus évident, je crois, est une couleur qui n'est pas forcément bien considérée.
Le bleu, ça peut être la mer et les naufrages.
Oui, ça peut être la mer et les naufrages, c'est vrai.
L'amour.
Ah oui, ouais. Il y a une raison plus terrestre encore. Ben, effectivement, on a dit le ciel. D'abord, dans l'Antiquité, on voit pas. Enfin, là, en l'occurrence, on voit le ciel bleu, donc on le rend bleu. Alors, vous savez, toutes les cultures n'ont pas forcément eu comme idée de représenter des ciels bleus. Hein. Ça, c'est aussi une convention qui est un peu la nôtre. Mais c'est vrai que dans l'Antiquité romaine, les ciels en général sont bleus. Bon. Mais il y a une autre raison qui fait que, par exemple, le bleu est assez déconsidéré. En fait.
Il apporte de l'eau.
Oui, mais ça pourrait être bien. Rappelons-nous les Égyptiens tout à l'heure. Oui. Ça pourrait être favorable.
C'est trop banal.
Alors, il y a peut-être, il y a un petit peu de ça. C'est même pire que banal.
Pas de nuages.
Alors là, on tourne dans le ciel. Là, il n'y a effectivement pas absolument de nuages, mais si on pousse un peu cette question de banalité, si on la creuse, c'est pire que banal, finalement.
C'est vide.
Un peu vide, oui. Et puis, autre chose encore, peut-être.
On n'y peut rien.
Il y a pas tel, on peut guère influer dessus, effectivement. Et puis, si on imagine, imaginez le monde romain. Hein, le monde romain, au 1er siècle, par exemple, de notre ère. Il occupe les territoires que vous savez. Dans les territoires qui entourent le monde romain, il y a des populations. Barbares.
Oui, les barbares sont nord.
Les barbares sont bleus. Ils sont bleus et verts. Ils sont, par exemple, ils ont les yeux bleus. Aujourd'hui, les yeux bleus, c'est super valorisé en Occident. Dans les terres romaines, pas du tout. Les yeux bleus, c'est un vulgaire. En fait, celui qui a les yeux bleus, c'est un barbare. Le barbare, il a les yeux bleus. Les gens du bassin méditerranéen, les Romains, voilà, des gens qui ont les yeux sombres, ça, c'est chic. Le barbare qui a les yeux bleus, les Celtes qui ont les yeux bleus, puis ils ont des cheveux blonds. Ça, c'est d'une vulgarité, franchement. C'est barbare. C'est des gens qui ne sont pas du territoire des Romains, si vous voulez. Hein. Donc, le bleu n'est pas du tout une couleur qui est jolie, etc. C'est une couleur qui est, je veux dire, un peu obligatoire. Le ciel, il est bleu. Alors, on le fait bleu. Hein. De toute façon, on ne va pas faire autrement, si vous voulez. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas tellement le choix. Hein. En Méditerranée, le ciel est bleu, ben, on le fait bleu. Voilà, on ne va pas le faire autrement. Hein. Même si parfois, on a pu l'interpréter différemment. Voilà. Mais le bleu, à part, j'allais dire, cet élément obligé qu'on lui accorde, c'est une couleur qui n'a pas une place très importante, hein, parce qu'encore une fois, c'est une couleur vulgaire, c'est la couleur des populations autres. D'ailleurs, souvent, les Celtes étaient aussi habillés en vert. César, par exemple, on parle beaucoup par rapport aux Gaulois. Ben, le vert, le bleu, c'est pas des couleurs, c'est des couleurs assez dépréciées. La couleur assez dépréciée. Des couleurs plutôt liées aux barbares, aux autres, à ceux qui ne sont pas de l'Empire, que quelquefois d'ailleurs on acclimate quand même, hein, et qui amènent parfois leur goût dans l'Empire, ce qui n'est pas toujours bien vu. Par exemple, le vert est une couleur qui va se répandre dans l'Empire romain, dans les couches un peu populaires, donc le vert va devenir une couleur de plus en plus présente, mais populaire, donc un peu dévaluée. Le vert, pas terrible, si vous voulez. Il arrive dans l'Empire romain, ok, mais ce n'est pas une couleur très valorisée. D'accord. D'ailleurs, je vous montre là, pour vous donner un exemple parmi mille autres, hein, un morceau d'une peinture murale qui est là à Rome, qui représente Apollon et qui est sur un fond bleu, parce que décidément le ciel c'est bleu. Bon, ben voilà, on le fait bleu parce qu'il n'a pas à être d'une autre couleur. Donc le bleu est vraiment un peu comme dans la Grèce antique, hein, une couleur de fond, une couleur de support. C'est pas une couleur en soi, si vous voulez. Le bleu, et pas, ça n'est pas, par exemple, le rouge qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va avoir dans un instant. Non, le bleu est une couleur un peu secondaire. On en tapisse le fond, mais c'est bien tout ce qu'elle vaut. Hein. On ne va pas s'habiller en bleu, si vous voulez. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une couleur digne, en quelque sorte. Hein. C'est une couleur barbare. Mais je vous ai montré également tout à l'heure ça. De quoi s'agit-il, là aussi, comme objet? De nouveau, une mosaïque. Hein. Voilà, décidément, beaucoup. Et cette mosaïque que vous voyez là représente quoi? Une course de chats. Tiens, à propos, les courses de chats, elles ont lieu dans quoi? J'entends arène, stade, cirque. Alors, dans quoi? Alors, on peut appeler ça un hippodrome, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, les courses de chats ont lieu dans des hippodromes. Hein. On peut appeler ça les hippodromes d'une autre manière. Quel est l'autre nom qu'on donne? J'en profite parce que souvent on confond tous ces édifices de spectacle antique. Les hippodromes ont lieu, les courses de chars, on les appelle comment? À Rome, par exemple, il y avait un très grand. Alors,
non.
Cirque. À Rome, il y a effectivement un lieu qu'on appelle. Alors, pas le Colisée.
Non, le Cirque Maxime.
Le Cirque Maxime. Hein. Le Cirque Maxime, le grand cirque. Hein. Vous savez, ceux qui connaissent Rome, il y a le Palatin. Et à côté du Palatin, il y a une espèce de grand espace tout en longueur. C'est là qu'est le Circus Maximus, le grand cirque. Parce qu'évidemment, ces cirques, on donne les courses de chevaux, ces hippodromes sont tout en longueur. Parce qu'il faut que les chevaux puissent passer d'un côté avec leur char, hein, et puis revenir de l'autre. Hein. Et effectivement, très, très souvent, on confond les cirques, qui sont donc des hippodromes, et qui sont faits pour les jeux du cirque, c'est-à-dire les jeux avec les chevaux, on les confond avec les jeux qu'il y a dans les amphithéâtres, comme le Colisée. Le Colisée, ce n'est pas un lieu où on donnait les courses de chars. Hein. Le Colisée, c'est un amphithéâtre, hein, c'est-à-dire un lieu rond pour les jeux de l'amphithéâtre, gladiateurs et autres combats d'animaux. Hein. Évidemment, c'est encore différent des théâtres, qui sont des demi-amphithéâtres, hein, où là, on donne des pièces de théâtre. Donc, il ne faut pas confondre ces trois lieux. Il y en a même un quatrième, qui est lequel du reste?
L'Odéon.
Hein. Dans l'Antiquité romaine, il y a environ quatre lieux de spectacle, qui existaient également dans la Grèce antique, et qui vont vraiment être confirmés par l'Antiquité romaine. Il y a l'Odéon, pour la musique, le théâtre, pour les pièces de théâtre, l'amphithéâtre, pour les jeux de gladiateurs, combats d'animaux, etc., et le cirque, qui n'est donc pas un amphithéâtre, hein, dans lequel il y a les jeux du cirque, c'est-à-dire les courses de chevaux.
Et les spectacles nautiques.
Alors, ça, c'était dans ce qu'on appelle les nomachies.
Mais oui.
Alors, c'est généralement dans les amphithéâtres. C'était le cas du Colisée. Hein. Le Colisée, on pouvait par moment remplir la scène d'eau et on y faisait des combats navals. On ne dit pas des combats navaux, je crois. On dit des combats navals. Donc, c'est dans les amphithéâtres que l'on donnait ce qu'on appelle des nomachies. D'ailleurs, dans le Colisée, il y a les évacuations qui permettaient d'amener l'eau.
Je crois qu'il y a un autre endroit à Rome.
Il y avait un autre endroit dédié pour les nomachies.
Oui,
spécialement.
La place actuelle à la forme, mais évidemment plus le.
Il y a plus le. Mais le Colisée servait aussi à ça. Et alors les nomachies, c'était beaucoup plus rare parce que ça demandait évidemment. Hein. Mais à Rome, rien n'était trop beau. Hein. Bien, donc on est là dans un cirque. Par parenthèse, qu'est-ce que vous voyez au devant?
Des sortes de... Ah.
Voilà, ce qu'on appelle la spina. Hein, oui. Parce que dans ces hippodromes, dans ces cirques, tout en longueur, hein, où il faut que les chars aillent d'un côté puis reviennent par l'autre, hein, il y a au milieu ce qu'on appelle la spina, qui est une espèce de grand mur tout en longueur, hein, sur lequel généralement il y a des obélisques, des sculptures, bref, toute une série d'éléments un peu décoratifs qui ornent la spina centrale. Il y avait souvent sur la spina d'ailleurs des éléments qui permettaient également, comme aujourd'hui dans les courses de voitures, vous savez, de noter les points. Hein. La première équipe passe, paf, on met un, elle passe une deuxième fois, on met deux, etc. Alors, qu'est-ce que nous représente dans cette mosaïque? On est dans un cirque, il y a la spina au premier plan, qu'est-ce qui se passe? Il y a un quadrige, vainqueur. Qu'est-ce qui nous dit d'ailleurs qu'il s'agit d'un quadrige vainqueur?
La palme.
Pourquoi la palme, c'est lié au vainqueur?
Parce que Jules César
était
chaud.
Oui, mais je ne vois pas le lien avec la palme des vainqueurs.
Oui, c'est du laurier.
Alors voilà, c'est du laurier. Là, c'est une palme. Une palme. Donc, c'est. Je pense que là, la palme serait passée jusqu'au pied de César.
Voilà.
Pardon ? Voilà, oui, mais pourquoi une palme et pourquoi pas une rose ? Alors, on pouvait, mais la palme est l'attribut de quoi ? De qui ? Pas de l'empereur. Il est l'attribut de la victoire. Les victoires, qui sont des sortes de divinités dans l'Antiquité, et en particulier dans l'Antiquité romaine, portent des palmes. Hein. Oh, je crois que vous avez déjà dit, parce que c'est une chose que j'aime bien rappeler, c'est que vous connaissez le mot victoire en grec. C'est Nike. Hein. Et la fameuse marque Nike, aujourd'hui, n'est en fait pas du tout une marque américaine. Enfin, le nom n'est pas du tout américain, c'est un nom grec. Parce qu'évidemment, quand on met des choses sur Nike, en fait, Nike, c'est pour gagner. Hein. Par mettre des choses, des baskets, pour perdre. Hein. Donc si elle s'appelle Nike, en fait, Nike, c'est pour gagner. D'accord ? Et les victoires portent toujours des palmes. Donc la palme, c'est l'emblème de la victoire. Donc vous avez raison, là, c'est le quadrige victorieux qui est reçu. On lui offre la palme, un édile lui offre la palme, et on fait de la musique pour accompagner cette remise de prix, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous remarquez quant à la couleur du vainqueur ? Il est vert. Il est vert. Et ça vous suggère quoi par rapport à ce que je viens de vous dire ? Alors voilà, c'est-à-dire que, effectivement, le vert, c'est une couleur qui est dévalorisée, etc. Et c'est une couleur dont on a vu qu'elle correspondait aux barbares, effectivement. Puis on a même donné d'autres noms pour cette couleur vert. C'est une couleur vulgaire. Une couleur vulgaire. Hein. Si vous voulez, je vous l'ai dit, hein, cette couleur barbare va petit à petit s'instiller dans l'Empire romain, parce que petit à petit, des populations sont assimilées à l'intérieur de l'Empire romain. Et le vert va en fait devenir une couleur qui va s'intégrer petit à petit dans l'Empire et va devenir une couleur très vulgaire, mais aussi au bout d'un moment très populaire. En fait, c'est assez amusant parce que dans les équipes de cirque, je vous montre là les gens de correspondance, c'est une mosaïque du 3e siècle. Hein. Dans les cirques, en fait, il y avait des équipes de couleurs différentes. Hein. Il y avait l'équipe bleu, l'équipe blanche, l'équipe rouge, l'équipe verte. Hein. Et au fur et à mesure de déroulé de l'Empire romain, de plus en plus, le peuple va, en tout cas c'est le cas à Rome, soutenir les équipes vertes. Parce que le vert, c'est la couleur du peuple, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette couleur barbare, cette couleur qui s'intègre petit à petit dans l'Empire, cette couleur qui était pas trop regardée, sinon pour faire des arbres, parce que les arbres, ils sont verts, hein, ça c'est clair, hein, et qui n'était pas trop utilisé, pas trop considéré. Les barbares sont habillés en vert. Hein. Et bien, petit à petit, il va devenir une couleur très populaire, si vous voulez, dans les couches inférieures de la société. Et puisque ces couches inférieures de la société vont au jeu du cirque, du pain et des jeux, rappelez-vous de l'expression, hein, et que ces jeux du siècle sont extrêmement populaires, eh bien, le peuple soutient en premier les conducteurs de quadriges, les auriges, verts, parce que le vert est leur couleur. Donc, en fait, on voit comment dans l'Empire romain, le vert, couleur peu utilisée, le devient de plus en plus, et une couleur de plus en plus populaire. Donc, il ne faut pas s'étonner que là, dans cette mosaïque de Piazza Armerina, c'est un jockey, enfin un jockey vert, qui gagne. Hein, parce que dans les populations, si vous voulez, populaires, le vert, c'est la couleur que l'on soutient. C'est la couleur du vainqueur. Et ce qui vous dit quoi, d'ailleurs ? Par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui du vert. Et voilà. Le vert, la couleur de l'espérance. Pour nous, c'est ça le vert, justement. Pour nous, le vert. Et vous l'avez dit l'autre jour, rappelez-vous la première séance, vous l'avez dit que ce fois. Je dis le vert, c'est l'optimisme, c'est le moral, c'est l'espérance, c'est l'arme de sens, c'est tout ce qu'on veut. Le vert est une couleur que nous, aujourd'hui, on voit comme favorable. Mais ça date pas de nous, ça date de là. C'est-à-dire que c'est une couleur qui, au départ, est une couleur barbare, vulgaire, qu'on utilise, parce qu'il faut bien le faire, pour les arbres, les fleurs, les plantes, parce que c'est vert, évidemment, hein. Mais c'est une couleur qui, petit à petit, va, si je veux dire, gagner ses lettres de noblesse, précisément parce que c'est une couleur, au départ vulgaire, puis très populaire, qui va gagner du galon, si j'ose dire, et qui, aujourd'hui, est pour nous, mais à cause de cette histoire, la couleur favorable, la couleur qui fait que le vert, c'est la couleur de l'espérance. Ouais.
Et comme il dit,
oui. Non, effectivement, absolument. Il n'aime pas le vert. Oui, absolument. Il n'aime pas le vert. Il ne faut pas avoir des fauteuils verts, vous le savez, dans un. Dans
un costume.
Absolument, oui, absolument. Le vert n'est pas aimé. Mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les couleurs, elles sont ambivalentes. Si on pouvait dire, oh ben une couleur, c'est ça, puis point à la ligne, ce serait très simple. Et on va voir, on va encore le voir pour le Moyen-Âge tout à l'heure. Hein. Les couleurs, elles sont pas simples à manier. Les couleurs, c'est pas oh ben le bleu, le vert, c'est l'espoir. Et puis le rouge, c'est le sang. C'est pas aussi simple. Et le noir, c'est défavorable. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des époques différentes. Et puis il y a, à la même époque, des visions différentes sur une même couleur. Donc il y a une espèce de subtilité de la couleur qui est assez compliquée, mais qui est justement l'objet de cet atelier. Mais effectivement, les communistes n'aiment pas le vert.
Et un peu plus tard, le vert des musulmans.
Oui, absolument.
Puis après, il y a le verre d'âtre, ça c'est vraiment.
Ah,
ben
le
âtre. Oui, ah oui. Ah ben, mais d'ailleurs, toutes les. Le jaunâtre, le brunâtre, le âtre est pas. Oui, et pas très. Et ça. Alors d'abord, aussi, quel objet a-t-on sous les yeux ?
Une peinture, déjà.
Une peinture murale, là aussi, absolument. Et que représente cette peinture murale ? Un personnage, mais assis,
couronné, qui tient.
C'est romain.
C'est romain toujours. Ouais, tout ça est romain. Ouais. Donc un personnage assis couronné. Il y a un léopard effectivement à ses pieds. Un tigre, on va dire un gros chat ou un petit léopard. Hein. Mais les léopards sont quelquefois pas très grands. Hein. C'est un léopard.
Alors
il tient un sceptre.
Une
espèce de bâton qui se termine comment ? Ouais, une espèce, en tout cas, on va dire une formation végétale.
Hein ? Ouais.
Ah mais non, c'est pas un chapeau, c'est une colonne.
Voilà.
C'est une colonne par derrière.
Il y a une colonne. Mais ça dit, il a quelque chose sur la tête quand même.
Mais une couronne.
Une sorte de couronne.
Et puis alors, il tient alors un des vases. Oui, mais ça apporte un nom spécial que je ne sais plus.
Il tient.
Un nenokoé.
Il tient une sorte de coupe, effectivement. Là, par contre, vous avez quoi ?
Une musique.
Oui, un instrument de musique, c'est quoi ?
Une guitare.
Non, ben non.
Une sitar.
Un tambourin. Hein, c'est un tambourin. Ça, c'est parce que la peinture est un peu cassée, vous avez un tambourin. Alors, ben, bien, comme vous disiez, c'est Bacchus. Ce personnage, c'est Bacchus. Qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est Bacchus ?
La coupe.
La coupe, oui. Bon, Bacchus, c'est le dieu du vin, hein, alors il a très souvent une coupe dans la main. Hein. L'animal, parce qu'effectivement, Bacchus est généralement accompagné justement d'un léopard. Hein. Voilà. Il est accompagné de quoi, Bacchus, d'ailleurs, aussi, souvent ?
Une grappe de raisin, souvent.
Voilà, ouais. des bacchantes.
Il a les pieds sur un petit tabouret. Ouais.
Ah oui, bah c'est plus confortable. Et puis c'est...
C'est pour la dignité, alors.
Pour la dignité. Hein, oui. Les pieds par terre, c'est pas nous, comme on s'appelle. Pardon ?
Ah si. Non, non, l'autre est replié.
Non, non, l'autre est là. Hein. Il y en a une là et l'autre là. Hein. Et puis alors, ça, c'est quoi, cette espèce de hampe ? C'est le tirse. Hein. Ah. Le tirse qu'ont les bacchantes, justement, mais que Bacchus peut avoir, vu que ça fait des doigts après tout, c'est une sorte de bâton qui, en général, se termine plutôt avec une espèce de grosse pomme de pin, hein, mais qui est souvent agrémentée de quoi, d'ailleurs ? Autour, oui, alors il peut y avoir des rubans, c'est toujours plus joli, mais il faut que ça tienne, hein. Souvent des rubans. Oui, souvent il y a d'autres choses avec la pomme de pin. Oh, Bacchus.
Des raisins,
ou bien...
Les feuilles.
Les feuilles de vigne. Et puis il y a également les feuilles d'autres choses. Une plante très liée à Bacchus. Le lierre. Le lierre est lié à Bacchus, et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le tirse. Alors le tirse, ça, donc c'est pas une lance, hein, c'est une sorte de bâton qui se termine par cet élément végétal. Le tirse, il désigne Bacchus et ce qu'on appelle le thias bachique, c'est-à-dire le cortège de Bacchus. Bien. Ok, donc voilà ce que ça représente. Maintenant qu'on sait ce que ça représente, qu'est-ce que vous auriez à dire là pour la couleur majoritaire, encore une fois ?
Le fond.
Voilà, le rouge. Alors qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Oui, mais c'est le fond. C'est le fond.
Le fond, ouais. Mais évidemment, c'est très très lié au personnage. Hein. Alors, ça évoque évidemment l'idée du vin, hein, Bacchus, le vin, ouais.
Mais le sang,
ça peut évoquer le sang aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi par rapport au... Alors, ça veut dire que le rouge, la valeur, la nature du rouge, au-delà du fait que ça peut signifier ici. Le vin, c'est Bacchus, le sang, après tout, le rouge, on l'a vu, hein, dès le début, c'est des choses qui évoquent le pré ou bien le sang, c'est très naturel, hein, tout comme le bleu évoque le ciel. Le rouge, autrement dit, va pouvoir signifier quoi ? Au-delà de ça, comme sens profond, au-delà du fait que ça incarne, par exemple, l'idée du vin ou du sang. Les pulsions, oui. La puissance. Effectivement, la puissance. Hein. Est-ce que vous savez de quoi ça vient, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui fait que le rouge va devenir comme ça une couleur tellement importante dans l'Empire romain ?
Parce que c'est la vie.
C'est la vie, mais qu'est-ce qui explique ce fait-là ? C'est la vie, c'est le sang, c'est vrai. Hein. Mais qu'est-ce qui explique ça ?
Parce que sans faire du rouge, il faut trouver, je ne sais plus quel matériau...
Alors voilà, absolument. Pour faire du rouge, il y a une nécessité. Alors, il y a plusieurs matériaux. Hein. Il y a le murex, c'est quoi ?
Un coquillage.
D'un coquillage. Hein. Donc effectivement, ça permet de faire un type de rouge bien particulier, la pourpre. Et c'est très cher. Et c'est de très très belle qualité. Bon, c'est compliqué à mettre en œuvre. Hein. Donc effectivement, c'est valorisé à cause de ça. C'est-à-dire, il y a d'autres manières d'obtenir du rouge qui peuvent être des manières plus, moins chères, plus économiques, etc. Hein. Donc, le rouge, effectivement, peut notamment évoquer cette idée d'importance, de puissance, parce que vous l'avez dit, c'est la vie, le sang, c'est la vie, le sang, c'est rouge, donc le rouge, c'est le sang, donc c'est la vie.
Là. On dit toujours la pourpre impériale.
Voilà. Alors, effectivement, la pourpre va en plus devenir cette couleur qui vient du murex, et donc qui est chèrement acquise, hein, puisque c'est si cher, justement, ça va être, effectivement, la couleur des empereurs. Que des empereurs ?
Non, c'est un mot de tout.
Pardon ? Des sénateurs, partiellement des sénateurs, hein, la bande. Hein. Parce que vous savez que dans l'Antiquité romaine, il n'est pas question que tout le monde s'habille en pourpre, hein, attention. Hein. Si vous vous habillez vous en pourpre, ça va mal se passer. Hein. On cite d'ailleurs l'exemple d'un souverain de quelques principautés de l'extrémité orientale de l'Empire romain, qui avait plein d'argent, d'une principauté d'Asie mineure, hein, l'actuelle Turquie, qui est un jour venu à Rome. Il avait beaucoup d'argent, donc là, on en a dépensé beaucoup. Il s'est acheté des vêtements pourpres, Et il s'est habillé et promené en pourpre dans Rome, ça n'a pas du tout plu. Il a été arrêté et décapité. Parce que le pourpre, c'est la couleur de l'empereur. Hein. On ne s'habille pas en pourpre comme ça. Ça ne se fait pas. Le pourpre, c'est la couleur de l'empereur et c'est la couleur d'autres gens aussi. Plus tard, effectivement. D'ailleurs, Sucé explique cela. Hein, ça vient de cette idée. Hein, mais il y a une autre raison encore. J'allais dire, entre guillemets, d'autres populations qui peuvent, elles, avoir du rouge. Pardon ? Alors, il peut y avoir certains prêtres, le blanc est d'ailleurs souvent la couleur des prêtres. Hein, mais bon. Mais surtout.
Mais les dieux, alors ?
Les dieux, il n'y a pas de problème. Les dieux peuvent être rouges ou liés au rouge, si vous voulez. Hein. Donc le rouge devient en effet une couleur très importante. Par parenthèse, le fait que le rouge soit une couleur si valorisée, si importante, vient peut-être aussi des tréfonds de l'histoire du rouge. On a vu que le rouge, c'était la couleur au départ. Rappelez-vous des grottes préhistoriques. Hein. On a vu que les grottes préhistoriques, il y avait en gros deux couleurs. Hein, au-delà des parois, mais qui sont de toutes et aucune couleur. Les deux couleurs, c'est le noir, qui est... On l'a vu tout le fait au départ, plus une valeur qu'une couleur. Hein. Et l'autre couleur, c'est le rouge. Hein. Le rouge, c'est notre vieille couleur d'origine, si vous voulez. Hein. On est lié à la couleur rouge indéfectiblement, parce que, quelque part, c'est la première couleur qu'on a connue. Quoi. Et bien, l'Empire romain, sans faire tout ce calcul, on s'en rappelle, quelque part, le rouge, c'est la grande couleur, mais effectivement très valorisée pour les raisons qu'on vient de nous dire. D'ailleurs, si je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez ? Pardon ? Ça, c'est très rouge, hein ? Alors, oui, c'est ce qu'on appelle une intaille. Hein. Donc, c'est en fait une... C'est à quelle dimension, ça ? C'est tout petit, ça doit avoir 1 cm. Hein. Mais vous avez, si j'ose dire, les mêmes au musée de Nantes, ici. Hein. Voilà. C'est donc un tout petit objet hein, qui est en jaspe, rouge. Et qui représente, c'est marqué, j'aurais pas dû mettre la légende. Bon, ça représente Hercule et le lion de Némée. Hein. Voilà. Alors, évidemment, toutes les intailles ne sont pas rouges, hein, mais beaucoup d'intailles sont rouges aussi parce que, quand on présente Hercule, qui est un dieu, le rouge va sied au dieu, si vous voulez. Donc, souvent, le rouge est une couleur, on vient de le voir, valorisée, sacrée quelque part. Hein. C'est une couleur forte et importante. Hein. Vous vous rappelez que je vous avais montré ça la première séance, hein, qui était un détail de la Villa des Mystères à Pompéi. Alors là, je vous montre une vue générale de la salle dans laquelle se trouve cette peinture. Et cette salle représente un mystère, c'est-à-dire en gros une initiation. Hein, une initiation à un mystère divin. Vous savez que dans l'Antiquité, il y a des cultes, j'allais dire, d'Antiquité romaine, hein, des cultes normaux, avec des temples, des statues, on fait ses dévotions, on donne de l'encens, des fleurs, que sais-je encore, on sacrifie 3 oiseaux, puis voilà. Et puis il y a des cultes plus compliqués, des cultes à mystère, dans lesquels on est initié, un peu loin du public. Hein, ce qui est montré dans la Villa des Mystères à Pompéi, c'est ça. C'est l'initiation rituelle, non pas du tout grand public, hein, mais d'une personne particulière. Eh bien, le fond est rouge, précisément parce que le rouge, c'est la couleur à la fois justement du divin, mais aussi de l'initiation et du mystère. Il y a, le rouge a toute cette dimension très sacrée, si vous voulez, très valorisée. C'est la couleur, décidément, des dieux, du divin et du religieux, d'une certaine manière. Alors, cette dernière photo que je vous ai montrée, elle doit vous dire par conséquent autre chose. Enfin.
Alors, Auguste en couleur.
Voilà, c'est Auguste en couleur. Hein. Auguste en couleur, ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites cet Auguste en couleur ?
C'est un détournement, non ?
Pas tout à fait, mais un peu.
Vous êtes des statues.
Oui.
Sauf la tête. Et quand un empereur mourait, on remplaçait la tête par un autre empereur, par la tête d'un autre empereur. Et ça évitait de remplacer toute la statue.
Alors,
et il y a un bel exemple à Vaison-la-Romaine. Voilà, pardon.
Alors, ce genre de choses peut arriver, mais c'est quand même pas très très fréquent. Hein. Parce que, sauf évidemment, quand on a intérêt à faire oublier l'empereur précédent, ce qui peut arriver. Hein. Parce que quelquefois, un empereur succède à un autre, il tient absolument à éliminer le précédent. Hein. D'ailleurs, c'est passé la même chose dans l'Égypte antique, par exemple. C'est passé la même chose chez les rois de France aussi, hein. Entre autres. Hein. Effectivement, ça peut arriver. Un empereur arrive et il fait éliminer les représentations de l'empereur précédent. Mais il y a aussi des statues qui, elles, étaient faites pour perdurer dans le temps. D'ailleurs, l'idée des empereurs, quand ils se faisaient représenter dans des statues de marbre, c'était aussi pour perdurer ad vitam aeternam, si j'ose dire. C'est le cas de cette statue en question. Mais vous avez dit effectivement que c'était, entre guillemets, un détournement, c'est-à-dire...
Moi, j'ai l'impression que ça a été repris par... n'importe quel artiste moderne.
Qui... Alors, ça n'a pas été repris par un artiste moderne.
Non, à l'époque, alors, à ce moment-là, et puis... Je
ne
sais pas, ça fait un peu...
Non, c'est un essai de restitution de ce qu'il y avait...
Voilà. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous voyez là est un moulage d'une statue célèbre. Vous connaissez cette statue ? Qui représente qui, d'ailleurs ?
Auguste.
Hein. Auguste, rappelez-moi un peu qui c'est ? Un empereur, lequel ?
Le premier.
Le premier après qui ? Voilà, après César, hein, il y a eu César et après il y a eu Auguste. D'ailleurs, Auguste a été, qui s'appelait Octave d'abord, hein, parce que ensuite Auguste. Hein, vous savez qu'Octave et Auguste, c'est le même personnage. Hein, bon, c'est avant et après qu'il soit empereur. Hein. Octave et Auguste sont donc une seule et même personne. Il est donc empereur et un empereur qui a... Une politique très structurante pour l'Empire romain, on va dire ça comme ça. Hein. C'est sur Auguste que connaît le Christ, après tout. Hein. Bon.
Mais Autun, et... quand même.
Pardon ?
Autun ?
Autun. À Augusto Dunum, hein, la ville d'Autun, hein, la ville d'Auguste, hein, Autun. Hein. Et Auguste est donc celui qui va, évidemment, organiser notamment les Gaules, mais pas seulement. Et donc c'est un empereur très important. Et il est, la sculpture que vous voyez là est en fait un moulage d'après une sculpture célèbre que je vais vous passer dans un instant. Et là, on a effectivement restitué la polychromie qu'il y avait sans doute sur la sculpture à l'origine. D'accord ? Et justement, qu'est-ce qu'elle vous montre, cette polychromie ?
Le rouge.
Le rouge, hein.
Le rouge.
Voilà. Alors, un peu de bleu, beaucoup de rouge. Hein. Et d'ailleurs, le rouge... Alors c'est l'empereur, hein. Le rouge c'est l'empereur, c'est la pourpre impériale, et même les cheveux, c'est-à-dire qu'il est roux, c'est-à-dire le rouge, c'est, il est tellement pourpre et couvert de pourpre qu'il est pourpre lui-même, si vous voulez. Hein. Alors vous voyez là, effectivement, là, le moulage restitué avec sa polychromie, voilà l'œuvre telle qu'on la voit aujourd'hui au musée du Vatican, hein. Elle est un peu moins colorée, hein. Mais l'analyse des restes de couleurs sur l'origine que vous voyez à gauche a permis de restituer ce qu'on voyait à droite. C'est le fameux Auguste dit de la Prima Porta, puisqu'il a été trouvé à Rome près de la Prima Porta. Et voilà donc à quoi il ressemblait autrefois. Ce qui veut dire que, puisque le rouge, encore une fois, hein, a cette dimension divine et impériale, c'est une couleur chiquissime, si vous voulez, dans l'Empire romain. Hein. Et on n'est pas obligé de se faire peindre toutes les pièces de sa maison en noir, comme on a vu tout à l'heure. On peut également se les faire peindre en rouge, parce que alors là, c'est la classe.
On a le droit de l'utiliser, quand même.
On a le droit de l'utiliser. Hein. Le problème, c'est la pourpre, et en s'engourant complètement. C'est là, le problème. Par contre, on a le droit de l'utiliser, et puis on a le droit d'utiliser d'autres rouges que la pourpre.
La pourpre plus violacée.
Un peu plus violacée, effectivement. Puis elle est plus veloutée, plus profonde. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà un appartement, pourrait-on dire, complètement rouge. Je voulais vous montrer ça. Pourquoi, à votre avis ?
C'est trop gaulois.
Alors, on est gaulois, je me suis dit qu'après tous ces Romains, il fallait quand même montrer. Hein. Quand même. Hein. Mais pourquoi, à votre avis, je vous montre spécialement ce coq, alors qu'on parle du rouge ?
Parce qu'il y a le vert, mais
il y a
le
blanc.
Il y a la crête. Voilà. Et alors, c'est assez amusant parce que, vous savez, aujourd'hui, mais on vient de le dire, hein, quand on parle du rouge, on dit le rouge. Mais pour les anciens, et d'ailleurs pour nous aussi aujourd'hui, quand on se prête un peu à la question, il n'y a pas un rouge, il y a des rouges. D'ailleurs, on a dit la même chose déjà pour le noir et autres, rappelez-vous. Voilà, pour toutes les couleurs. C'est-à-dire, il n'y a pas une couleur, il y a une couleur, mais avec mille nuances. Et il se trouve que les Romains avaient un intérêt particulier pour le rouge de la crête des coqs. Ils trouvaient que ça avait une qualité, si vous voulez, de nuance, de profondeur, de densité particulière, qui font que le coq est un animal très valorisé dans l'Antiquité romaine, du fait de... Alors, d'abord, c'est un animal qui fait cocorico, etc. C'est pas nous autres qui allons dire contre, mais en plus, la crête pourpre, si vous voulez, fait naturellement de cet animal une sorte d'oiseau impérial, entre guillemets. Et puis... Je voulais vous montrer ceci. C'est beau. Bon, encore une mosaïque, hein. Mais pourquoi est-ce que je vous la montre ?
C'est des murènes.
Alors, il y a une murène. Et pourquoi je vous la montre alors qu'on vient de parler de la couleur rouge ? Parce qu'il y a un murex. Ce que vous voyez là, c'est un murex. C'est-à-dire, c'est ce fameux coquillage qui permet d'avoir la couleur pourpre. Hein. D'où son prix, encore une fois. Parce que du murex, il y en a, mais enfin, il faut aller chercher. Il faut ensuite transformer le coquillage. C'est pas si évident. Pourquoi je vous montre ça maintenant ? Alors, oui, d'abord, comme objet, c'est quoi ? C'est alors, il n'y a pas une sanguine.
C'est un dessin.
C'est pas un dessin.
Ah.
Ouais. Et je dois dire aussi, enfin, mais je vous laisse dire. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir comme objet ? C'est pas un dessin. Même s'il y a des traits qui peuvent faire penser, c'est pas un dessin.
C'est une peinture.
C'est une peinture. Hein. C'est une peinture sur quoi d'ailleurs ?
Sur toile.
Pas sur toile.
Sur bois.
Sur bois. C'est une peinture sur bois. C'est petit, c'est grand, à votre avis ?
C'est assez grand. Bah oui, mais enfin, on ne peut pas, avec le bois, aller très loin.
Oui, voilà. Ce n'est pas une très grande peinture, là, à peu près cette taille-là. Hein. C'est un petit panneau de bois peint. Quelle époque ?
17e.
C'est en effet du 17e. Pourquoi est-ce que je viens de vous montrer une peinture du 17e siècle, alors qu'on parle de l'Antiquité et des couleurs d'Antiquité ? C'est une scène.
Dans les mêmes
à cause de... Il y a effectivement les coquillages.
Oui, mais...
Tiens, avant de regarder à nouveau le thème, vous avez une idée de l'auteur ? Quel est l'auteur de cette œuvre ? Pas Michel-Ange. Un artiste qui a beaucoup regardé du côté de Michel-Ange, mais qui n'est pas Michel-Ange. Un auteur célébrissime. Hein.
Il a du muscle.
Oui, un auteur qui aime bien la chair, le muscle, là. Pas Raphaël. Raphaël, ce serait plus... Sans doute... Et puis, peut-être moins musculeux, justement.
Mais c'est...
Pardon ?
Non.
Pardon ? Poussin ? Pas Poussin.
Et c'est... Il y aura le Caravage, il y aura le Caravage, mais enfin, c'est pas... Son
pas nom. Caravage non plus.
C'est pas ça.
Pas italien.
Hollandais.
Pas hollandais, pas allemand. Les tons se resserrent. Pas espagnol.
Alors français ?
Pas français.
Ah bah alors...
Pas anglais.
Mais qu'est-ce qui reste ?
Alors, on a bien dit, hein, pas espagnol, pas français, pas allemand, pas italien, pas anglais. Qu'est-ce que vous avez dit encore ?
Pas
hollandais.
Pas
suisse. Belge ou du 7e. Il est flamand. C'est un artiste flamand. Quel est cet artiste flamand ? Pardon ?
C'est pas bien beau.
Pas bien beau ? Oh là-bas, écoutez, monsieur a des goûts de luxe. Non, mais ça dit, vous avez le droit.
Rubens.
Je n'ai pas
voulu dire ça. Rubens. Oui, voilà, on a trouvé ces Rubens, hein, mais dites-nous.
Oui, je voulais dire, l'harmonie des couleurs est dans les jaunes. C'est pour ça que je trouvais qu'elle manquait de punch.
Alors, c'est vrai.
Oui, mais c'est un camailleux, pratiquement.
Voilà, c'est un camailleux. Et d'ailleurs, cette peinture de Rubens, hein, donc c'est bien une œuvre de Rubens, Pierre-Paul Rubens, un peintre flamand du XVIIe, qui est de petite dimension, qui est effectivement en camailleux et qui est assez légère. Vous voyez qu'on voit presque le bois. On voit le bois derrière la peinture. C'est quoi, à votre avis ? Quel est le statut de cette peinture ?
Une esquisse.
C'est une étude. C'est une esquisse de Rubens. Pour un tableau définitif, plus complet, on connaît comme ça plein d'esquisses de Rubens, des petits tableaux, comme ça, il y en a même un musée de Dijon, hein, des tout petits tableaux sur bois, comme ça, qu'a réalisé Rubens, très prestement, il vous faisait ça en 10 minutes. Hein. Et après, c'est des choses qu'il reprenait avec son atelier sur des tableaux qu'il faisait 4 mètres sur 5. Hein, voilà. Mais l'idée est donc là de faire des petites pochades, si vous voulez, des petites choses rapides qui permettaient de mettre en place les choses. Alors, cette œuvre de Rubens que je vous montre là, elle représente quoi? Vous avez dit qu'il y a des coquillages, mais qu'y a-t-il d'autre? Pardon? Ulysse? Il y a un chien et
il y a un
personnage.
Il y a apparemment un carquois.
Il y a un carquois. Je doute. Il y a qu'un carquois.
Il y a une peau.
Il y a une peau. Une peau de bête. On la voit là.
C'est le lion
aimé. Donc c'est Hercule. Hein. Voilà, c'est Héraclès, Hercule. Qu'est-ce que représente cette scène? Pardon? C'est pas Cerbère. Non, oui, parce que ça pourrait. C'est qu'un des travaux d'Hercule, ça a été d'aller voir Cerbère, hein, aux enfers et de le ramener à son cousin Eurysthée, hein, qui a eu tellement peur d'ailleurs quand Hercule lui a ramené Cerbère, qu'il est allé se cacher dans un grand vase, hein, tellement il avait peur. Donc c'est pas ce travail-là. Hein. C'est quoi? Pardon? Donc on a Hercule, on a un chien et il y a des coquillages. Qu'est-ce que ça raconte? Le chien, il fait quoi?
Il
joue avec un coquillage.
Ça a un rapport avec la peinture?
Ça a un rapport avec la peinture et avec la couleur.
La couleur, voilà, oui. Alors, c'est l'encre, je ne sais pas.
Alors, il joue avec un murex. Alors, le murex, là, à mon avis, Rubens n'avait pas vu beaucoup de murex. Hein, mais enfin, bon, c'est pas grave. Rubens, c'est un peintre. C'est donc un créateur qui se fiche de la réalité. Hein. Enfin, entre guillemets. C'est aussi simple que ça. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait avec son murex? Il joue avec, mais encore.
Non, il va le donner à son maître,
Oui, peut-être. Mais encore. Alors, bah oui, il le mange un peu. Et qu'est-ce qui se passe?
Et puis, il a de la
couleur. Eh bah, ben, il est tout rouge, regardez. Voilà. Vous voyez, la gueule du chien est toute rouge. En fait, le tableau que vous voyez là, c'est la légende de l'invention de la pourpre. La légende voulait que c'est Hercule qui a découvert la pourpre, parce qu'un jour, cependant avec son chien au bord de la plage, comme on fait tous l'été, son chien est allé traficoter dans des coquillages, et il y avait un murex. Alors il a fournicoté dans le murex, et puis il s'est barbouillé la gueule de rouge. C'est comme ça qu'est née la teinture pourpre. Hein. C'est la légende de l'invention de la pourpre. Très jolie légende, qui a été représentée par d'autres gens d'ailleurs. Le tableau de Rubens est célèbre. Tu les six qui est au musée Bonnat à Bayonne. Hein. Voilà. Et puis pourquoi je vous passe ça? D'abord, de quoi s'agit-il? Là aussi, quel est l'objet que vous avez sous les yeux?
Une enluminure, probablement.
Alors c'est effectivement une enluminure. C'est donc une peinture de petit format, une enluminure. Hein. Alors cette enluminure, elle représente quoi? Alors là, il y a du verre. Hein. Cette enluminure, vous la dateriez de quelle période? Moyen-Âge. Oui, elle est en l'extrême fin du Moyen-Âge, on va dire. Allez. Hein. Voilà. Elle représente quoi?
Une armée.
Oui, mais alors, il y a l'aigle à double tête.
Une armée qui s'apprête à traverser...
Mais l'aigle à double tête...
L'aigle à double tête, oui.
Trois fois.
Oui, il y a effectivement un aigle à double tête. On le voit quand on se les étend.
Alors, ça sera plutôt germanique.
Alors, effectivement, ça fait penser à l'Empire. Ça veut dire qu'on aurait un empereur. Peut-être. Non, puisqu'il a l'emblème de l'Empire.
Peut-être.
Ou un grand héros, en tout cas. Hein. Ouais. Alors voilà, il y a le héros armé, et le héros d'armes, c'est-à-dire le héros qui annonce. Hein, qui annonce.
Oui, mais c'est la traversée d'un fleuve.
C'est la traversée d'un fleuve.
Donc, on peut, avec la sonorité, faire reculer l'eau et permettre le passage.
Ah, ça pourrait être ça, une sorte de passage de la mer Rouge Bis, si j'ose dire. Hein. Oui. Voilà, hein. Ah, c'est une bonne idée, ça. Hein. Mais c'est pas ça.
Bon.
Il y a en effet, dans le fond, un château perché sur quelques montagnes.
Oui.
Quel est l'épisode qu'il a présenté?
Pourquoi il y a du rouge au niveau des glandes?
Ah, il y a en effet du rouge au niveau...
De l'eau.
Non. D'ailleurs, vous disiez le passage à la mer Rouge, c'était une bonne idée. Sauf que c'est pas le passage à la mer Rouge. Mais vous avez raison, il y a du rouge là. Ce fleuve, il est bleu, mais voilà qu'il est rouge au premier plan.
Une bataille.
Le sang, ah, le sang des victimes. Hein. Sauf que la bataille, on n'a pas l'impression qu'elle est
encore. Hein.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce rouge dans l'eau? Quoi ça? Quel est le thème de cette peinture? Pardon?
La victoire.
Alors, peut-être la victoire, mais pour l'instant, on n'a pas trop l'impression qu'il y ait eu une bataille. Quel peut être l'épisode représenté là?
Alors, est-ce que ce serait une adaptation germanique d'un truc biblique?
Alors, c'est pas biblique et c'est pas germanique.
C'est bien. Alors, c'est pas biblique et pas germanique.
C'est romain. C'est le Rubicon. Eh ben voilà. D'ailleurs, le Rubicon, il s'appelle Rubicon.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Couleur rubis. Ouais. Et l'empereur vous avez là, car son éteint, c'est César, qui est en quelque sorte l'empereur. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire du franchissement du Rubicon? Qu'est-ce qui se fait passer? Pardon? Pardon? Voilà. Hein? Voilà. Absolument. Voilà, c'est ça. Hein? Les dés, on s'en jetait. Hein? C'est-à-dire que, normalement, on n'a pas le droit de franchir le Rubicon avec une armée. Or, César va le faire, pour prendre le pouvoir, revenant de Gaulle. Hein, voilà. Et donc, il va passer le Rubicon, qui s'appelle Rubicon, parce qu'il est couleur rubis. Hein. Vous connaissez une expression contemporaine qui se réfère toujours à ça, c'est quoi? Le passage du Rubicon, mais le passage d'autre chose aussi.
La ligne rouge.
Exactement. Le passage à la ligne rouge. Aujourd'hui, on dit encore Obama, il y a quelques années, là. Hein. Oh, faut pas franchir la ligne rouge. Hein. La voilà, la ligne rouge. L'origine, elle est là. Hein. Franchir la ligne rouge, c'est pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge, pourquoi une ligne rouge, pourquoi pas verte et pas jaune? C'est l'idée du Rubicon, n'est-ce pas? On ne franchit pas la ligne rouge. Ça vient de César et du Rubicon rouge. Hein. Voilà. C'est ça l'origine de cette expression bien moderne. Hein. Une idée de l'auteur de cette miniature? Alors, c'est pas le sujet de ces séances, mais après tout, on a le droit de divaguer un peu. Hein.
Fouquet.
Bien. Alors, quelle heure est-il? Oh, ben, on peut encore travailler un peu, ça vous paraît. Il n'est que quart. Hein. Allez, on va un peu commencer avec le Moyen-Âge. J'aimerais que le Moyen-Âge, on l'aborde couleur par couleur, si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, on va le faire quand même. Parce qu'autrement, je ne sais pas très bien comment mentir. Bon. Donc, on va commencer par une couleur, pour bien commencer par une couleur.
Le noir.
Le noir. On ne peut rien vous cacher.
Ah oui. Et oui. Duc de Bourgogne.
Alors. Attendez, je regarde tout de suite. Oui, vous avez reconnu, bien entendu, de qui il s'agissait. Hein. Il s'agit du duc de Bourgogne. On va en reparler, d'ailleurs, dans un instant. Ce qu'il y a, c'est que je vais vous montrer d'abord les quelques diapositives que j'ai préparées. Hein. Et puis après, on viendra sur chacune d'entre elles. Alors, on va déjà commencer en parlant du noir. Hein.
Personnage. Ah oui. Non. Par quel mal Luther, par Durer. Par Durer. Non.
Voilà. Alors on va déjà aborder le noir en parlant du Moyen-Âge. Et encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que la façon dont on va aborder le noir au Moyen-Âge, tout comme d'ailleurs pour l'Antiquité, etc., est d'une façon qui est vraiment pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire pour le Moyen-Âge, oh ben c'est simple le Moyen-Âge, le rouge c'est bien une chose, le noir c'est l'autre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On l'a vu pour les périodes antérieures, il y a une subtilité de la question de la couleur qui est très grande. Hein. Donc on ne va pas, dans ce qu'on va regarder maintenant et la fois prochaine, simplement faire, je veux dire, des présentations binaires, une couleur égale quelque chose, que c'est bien complexe, très nuancé, et on va essayer simplement de voir un certain nombre de codes qui sont liés à certains moments, dans certains contextes, à certaines couleurs. Par exemple, commençons Parse. Alors ça, vous avez commencé à le dire, hein. Vous le reconnaissez. C'est qui? C'est Charles le Téméraire, le dernier des ducs de Bourgogne. Bien. Alors, il est habillé comment? Il est habillé en noir.
Noir sur fond noir.
Noir sur fond noir, oui. Alors, en fait, le fond de la peinture, mais c'est très dur hein, d'obtenir des couleurs, est un peu vert, et plutôt vert foncé que noir. Mais bon, là, ça paraît noir. Mais par contre, il est bel et bien vêtu en noir. Pourquoi est-il vêtu en noir? Pardon? Oui, mais alors pourquoi le noir serait la couleur de l'autorité? Pourquoi pas le rouge? Qu'est-ce qui fait que, Charles Téméraire, vous nous situez quand? 15e, oui. Hein. Au 15e, il meurt en 1477. Hein. Qu'est-ce qui fait que Charles Téméraire est vêtu de noir, couleur qui, en particulier, peut évoquer cette idée de l'autorité?
La religion,
c'est la religion. Oui, la religion, c'est-à-dire que... Quel serait le lien entre la religion et le noir?
La sévérité.
L'ascèse. Est-ce que la religion catholique, qui est celle de Charles le Téméraire, est si ascétique que ça, d'ailleurs?
Non.
Pas forcément.
Non.
Hein? Donc, c'est peut-être pas tout à fait ça.
Parce que son père était en noir, il a voulu rester dans le noir.
Absolument. Qui est le père de Charles le Téméraire?
Philippe le Bon.
Philippe le Bon, effectivement. Donc là, on a Charles le Téméraire. Hein. C'est une œuvre qui est sans doute due à Roger van der Weyden. Hein. Donc c'est le portrait de Charles le Téméraire. Et le père de Charles le Téméraire, c'est lui. C'est Philippe le Bon, qui est également revêtu de noir. Donc vous avez raison. Charles le Téméraire est vêtu de noir parce que son père déjà est vêtu de noir. Hein. Et ça recoupe d'ailleurs la question de l'autorité dont vous parliez tout à l'heure, hein, parce que Philippe le Bon est quand même le duc de Bourgogne des quatre, hein, celui qui correspond à l'apogée de la Bourgogne ducale. Hein. Et donc c'est quelqu'un, Philippe le Bon, il fallait vraiment, c'était lui qui faisait la politique d'Europe occidentale, Philippe le Bon. Hein. Tout le monde voulait avoir les bonnes grâces de Philippe le Bon. C'est le personnage important de la politique occidentale, Philippe le Bon. Donc c'est effectivement quelqu'un qui... a assis son autorité sur toute l'Europe occidentale. Donc on comprend que le fils ait repris les habits du père, parce que c'est une manière de s'arroger l'autorité de son père. Hein. Donc effectivement, il s'habille sur le terrain en noir, parce que son père était en noir, et que son père, c'est l'autorité. Bien. Mais pourquoi cette fois, Philippe le Bon, lui, décide de s'habiller en noir? Parce que vous m'avez dit, bon, j'aurais été rien d'accord, mais vous n'avez pas dit
Philippe le Bon. C'est parce qu'en souvenir de son père qui a été assassiné.
On va monter combien de générations?
Ah oui, on va remonter jusqu'à Ève, comme ça. Bien donc. Eh bien, vous avez raison. Si Philippe le Bon s'habille en noir, c'est en souvenir de son père. C'est qui le père de Philippe le Bon?
Jean
sans peur. Mais le père de Philippe le Bon, est-ce que le père de Philippe le Bon a été assassiné hein, en 1419? Et pour, j'allais dire, marquer le coup hein, et garder le souvenir de son père assassiné, Philippe le Bon a décidé de s'habiller en noir. Et toute sa vie, il s'est habillé en noir. Et son fils, idem, pour les mêmes raisons. Hein. Bien.
Alors le noir est le deuil.
Alors voilà, ça veut dire, voilà, exactement, ça veut dire que le noir est, à ce moment-là, une couleur du deuil. Hein. On le verra, c'est pas forcément la seule, d'ailleurs, mais c'est une des couleurs du deuil. Quelle va être la conséquence de ça? Parce que Philippe le Bon s'habille en noir pour porter le deuil, parce que le noir devient une des couleurs du deuil de son père. Mais ça veut dire que le noir, quelle va être la conséquence sur cette couleur qu'est le noir? Le personnage le plus influent d'Europe occidentale à l'époque, ou du moins l'un des plus influents, Philippe le Bon, s'habille en noir. Ça veut dire quoi? Quelle va être la conséquence?
Il va donner la main.
C'est-à-dire que vraiment, désormais, quand on est un personnage important, on s'habille en noir. Vous pouvez me citer des gens de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance hein, qui aimaient beaucoup s'habiller en noir? En Espagne, tous en noir. Hein, tous en noir. Tous en noir. Bah, et pourquoi? Pourquoi les Espagnols plus que d'autres? Parce qu'ils sont descendants des ducs de Bourgogne. Hein. Je rappelle que Charles Quint et Philippe II sont descendants directs de tout ce monde-là. Hein. Donc en fait, les Espagnols, enfin, la famille royale espagnole, hein, est absolument, à cette période, hein, absolument descendante des princes bourguignons. Par parenthèse, je vous montre ici un portrait de Charles Quint en noir. Avec d'ailleurs le collier de la toison d'or, lui aussi. Ça va devenir, mais vous l'avez dit, ça va devenir la couleur chic des princes du temps. Le roi René et sa femme en noir. Le noir, c'est chic. Le noir devient vraiment la couleur qu'il faut avoir. Le plus grand personnage du temps, quasiment, est tout noir. Eh bien, il faut que tout le monde soit tout noir. Donc le noir va devenir la couleur princière à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui fait aussi, d'ailleurs, que le noir devient une couleur d'autant plus prisé. Il y a cette histoire de Philippe le Bon, etc., mais peut-être d'autres raisons. Hein ? Pardon ? Oui, plutôt... Alors, vous voulez dire que c'est pratique à utiliser ou est-ce que la raison est pratique ? Ben, c'est effectivement une raison pratique qui fait que le noir... Enfin, pratique... Pratique ou pas pratique, justement, qui fait que le noir va devenir une couleur chic.
Oui, parce que d'abord, on peut mettre toutes les couleurs à l'air.
Alors, oui, sauf que généralement, comme vous le voyez, ils sont noirs plus noirs.
Oui, mais
depuis...
Noir et blanc, il y a un petit
liseré. Ah, il y a un petit liseré blanc, ouais.
Petit. C'est un toison d'or, ça ressort bien dessus.
Ah, la toison d'or, là, c'est pas la toison d'or. Mais c'est vrai que Charles Quint, tout à l'heure, la toison d'or, ou Charles le Téméraire, le noir et l'or, c'est très bien. Il y a aussi que le noir est une couleur. Bon, je veux dire, toutes les couleurs peuvent s'obtenir difficilement et facilement, mais un beau noir, une étoffe bien noire. Et on l'a vu d'ailleurs la dernière fois quand on a parlé notamment de l'Antiquité grecque. Je vous parlais des tissus comme un vecteur important de lien avec la couleur.
Une difficulté de teinture, peut-être.
Exactement. C'est pas si simple. Si vous voulez avoir une belle étoffe noire, très belle, le cahier, c'est pas si simple. C'est très cher. Alors, les princes, ils n'ont pas forcément envie de s'habiller avec des couleurs faciles à avoir. Voilà, les princes s'habillent en jean, si vous voulez. Un prince, ça s'habille avec de beaux tissus, compliqués à avoir, il faut que ça coûte cher. Ben, le noir, le beau noir, l'étoffe bien noire et bien belle, c'est cher. Donc, il y a également des éléments pratiques qui font que le noir devient une couleur princière. C'est une couleur chic, c'est une couleur chère. Deuxième image.
Alors, c'est...
Une enluminure.
Oui, mais...
On a effectivement une enluminure. Et cette enluminure, cette miniature, représente quoi ?
Un moine bénédictin.
Un moine bénédictin. Parce qu'en effet, les bénédictins, leur caractéristique, c'est qu'ils sont habillés en noir. Vous pouvez me citer une abbaye bénédictine célèbre ?
Cluny.
Cluny. Cluny, c'est le grand lieu, évidemment. Bien. Pourquoi noir ? Pourquoi les bénédictins s'habillent-ils en noir ?
Peut-être parce qu'il y avait des moutons noirs. Et la laine,
peut-être.
La laine facile à trouver.
Facile à trouver, c'est possible.
Mais c'était un noir qui était marin.
Oui, oui, d'ailleurs, oui, que c'est un noir.
Noir grand.
Bon, c'est pas une photographie, mais je suis pas sûr, en effet, que la qualité des étoffes bénédictines ait eu la qualité des étoffes qui revêtaient M. Philippe le Bon. Je ne suis pas sûr. Alors, pourquoi les bénédictins choisissent le noir ? À votre avis ? Parce que c'est une étoffe chic, chère ?
Non.
Parce que c'est l'étoffe qui met en avant les princes et qui doit alors l'étoffe des princes.
Ça représente l'austérité.
Pardon ?
C'est sans apparat, c'est sobre.
C'est sobre. Effectivement, ils adoptent le noir parce que c'est sobre, sans apparat. Mais alors, c'est marrant parce que, pas au même moment, mais les bénédictins ont existé. Au même moment, quand même, au XVe siècle, par exemple. Ça, c'est une miniature antérieure. Mais au XVe siècle, on a à la fois les princes qui s'habillent en noir, mais les moines qui s'habillent en noir aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est l'austérité, le noir. Le noir, c'est en effet quelque chose qui est à la fois neutre, sans afféterie, une espèce d'austérité. Et c'est amusant parce que vous voyez que le noir, au même moment au Moyen-Âge, a finalement deux. Va dans des directions, c'est la couleur chic, chère, dont s'habillent les princes, et c'est la couleur de l'austérité, la couleur de l'humilité, c'est celle des moines bénédictins. Donc vous voyez que, décidément, les couleurs, c'est compliqué, parce que au Moyen-Âge, à une même période, le noir veut dire deux choses. Voilà, il est la couleur de l'orgueil, Philippe le Bon, parce que Philippe le Bon, quand même, un type, et il est la couleur des plus humbles. Je vous montre quand même le cartel. Voilà. Donc, un moine copiste bénédictin. Il y a d'autres ordres monastiques qui vont utiliser le noir. Dominicain. Dominicain. Ah, ça, c'est un demi. Tiens, par parenthèse, voilà, le manteau. Le manteau pas dominicain est noir. Pas la robe, hein, la robe est blanche. Voilà, le manteau est noir. Hein. Et dominicaine, évidemment aussi. Vous connaissez tous l'origine du... ça n'a rien avec la couleur, mais j'aime beaucoup... Vous connaissez tous l'origine du prénom Dominique.
Ah non.
Non. Ah bah alors... Oui, alors Dominique, oui. Mais que
Dominique. Non, il y a une autre raison. Oui, mais je ne sais plus.
Ah bah alors... j'aime beaucoup cette histoire.
Alors
En fait, Dominique, ça vient de Dominicanis. C'est-à-dire le chien de Dieu.
Oui, c'est vrai.
Les Dominicains se veulent les chiens de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à Dieu. Donc, Dominique, c'est Dominicanis, le chien de Dieu. C'est pour ça que vous verrez toujours ça. Enfin, pas toujours, là, c'est pas le cas. Mais généralement, Saint-Dominique est figuré avec un chien. C'est pour ça que j'aime beaucoup Saint-Dominique, parce que j'aime beaucoup les chiens. Et que je trouve que c'est très bien d'être le chien de Dieu, après tout. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai un chien noir et une chienne blanche. Voilà, donc, on est très dominicains. J'ai été élevé par des dominicaines, alors non, ceci explique cela. Voilà. À Chalon d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'est Saint-Dominique, dont vous voyez encore cette utilisation du noir dans cet autre ordre monastique. Très belle, très beau détail de la fameuse peinture de Fra Angelico. Hein, oui, je vous montre ça également. Voilà encore une autre miniature montrant des moines dominicains au réfectoire. Avec toujours cette défroque, pourrait-on dire. Et ça,
Luther.
C'est Luther.
Par hein, Durer. Luther, hein. Durer.
Pas Durer. Quel est alors c'est quel genre d'objet vous avez là?
Une peinture sur bois.
Une peinture sur bois. C'est un tableau sur bois. Ce tableau sur bois représente Luther. Alors l'auteur, ça n'est pas Durer, c'est.
Ah.
Oui, c'est lui. Pardon.
Cranach, oui. Voilà.
Cranach, hein, c'est Cranach. C'est donc une œuvre de Luca Cranach, l'ancien d'ailleurs, parce que un jeune, et qui donc représente Martin Luther. Habillé en noir, pour quelle raison?
À l'époque...
Voilà, l'idée là aussi de l'austérité. Oui, mais on vient d'en parler pour les moines bénédictins, pour les moines dominicains.
Oui, mais il était augustin, lui.
Pardon?
Il était augustin.
Oui. Et quel est... Les augustins sont en noir aussi, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais là, c'est après.
Absolument.
Parce que 1532, on est après 1517.
Absolument. Hein. Mais alors, quelle est la raison qui fait que Luther choisit le noir?
Mais l'austérité aussi.
Alors, voilà, pardon.
Ça ne pourrait pas être une synthèse, à la fois l'austérité et la puissance de l'argent?
La puissance de l'argent, mais qui serait montrée comment?
Par le noir, justement.
C'est-à-dire, Luther voudrait, en effet, se vêtir d'habits d'austérité, mais en même temps souligner par là l'importance de l'argent pour lui?
Non, pas pour lui.
Non, non, non. C'est par opposition. C'est par opposition à toutes les dérives de l'argent.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un problème par rapport à l'argent, comme vous le souligniez. C'est-à-dire que le but de Luther, c'est... Et quelque part, là, il rejoint nos moines bénédictins, par exemple, sa vie de noir, parce que le noir, c'est l'humilité, c'est aussi la pénitence, hein, c'est le péché, enfin, c'est tout ça. Hein. Donc le noir, c'est ça. Et c'est effectivement, en s'habillant en noir, c'est une manière d'énoncer ceux qui ne s'habillent pas en noir.
La pourpre de l'Église.
Pardon, la pourpre voilà, de l'Église. L'Église, le pape, il est habillé en rouge, et puis il est habillé de l'or, etc. Il est antipapiste, évidemment, hein, Luther. Hein. C'est les guerres de religion, le protestantisme, etc. Hein, vous connaissez tout ça. Eh bien, Luther, justement, on prend le contre-pied des fla-fla catholiques, si vous voulez. Hein, et lui, il s'habille en noir. Il ne va pas être le seul, mais Langton, etc., hein, Calvin. Et donc, l'idée va être de s'habiller de noir, parce que le noir, c'est l'austérité, c'est l'humilité, c'est la pénitence, mais c'est l'anti-religion catholique. Hein. Donc, Luther s'habille de noir, parce que le noir, c'est ça. C'est l'opposé de ce qu'il dénonce. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que là aussi, qu'est-ce que vous avez comme objet devant vous?
L'enfer.
Oui, l'enfer, mais l'enfer, elle est représentée comme, enfin, c'est quoi comme? C'est une peinture, hein, c'est aussi une peinture sur bois, ça. Hein. C'est, je veux dire, c'est un détail. Une peinture qui représente quoi? L'enfer. Hein, voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je vous rappelle qu'on parle de la couleur noire, là. Hein.
Le noir.
Voilà.
Plus on descend, plus c'est noir.
Plus on descend, plus c'est noir. Hein. On va dire c'est deux couleurs. C'est noir et rouge. Hein. Rouge et noir. Voilà. Hein. Voilà. Effectivement, vous avez là un horrible démon, tout noir. Hein. Ils ne valent pas beaucoup mieux. Ceux-là, ils sont plus petits, mais ils sont tout noirs aussi. Hein. Vous avez des tas de démons noirs partout. Voilà. Alors là, la couleur du noir, elle évoque quoi? Voilà, effectivement.
Le mal. Enfin, le mal.
Voilà, elle évoque le mal, elle évoque l'enfer, elle évoque les démons, elle évoque les monstres. Le mal, c'est le noir, blanc, c'est la punition, c'est le mal, effectivement. Hein. D'où le fait que très souvent dans l'enfer, le diable, Satan, est représenté en noir. C'est une œuvre là de Fra Angelico. Hein. Oui. Alors c'est une, je vous montre à la fois le détail d'un peu plus près. Hein. Vous voyez donc cet horrible diable noir qui est en train de se manger des victimes. Hein. Hein. Vous voyez? Alors je vous repasse en arrière. Hein. Hein, vous le voyez mieux là. Hein. Hein, vous voyez qu'il est en train d'avaler ses victimes. Hein. Bon. Puis il y a des petits diablotins noirs ou bruns tout autour. Hein. Hein. Mais le tableau complet, le voilà. Hein. C'est un tableau qui représente le jugement dernier. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez les tombes ouvertes, hein, avec tous les bienheureux qui s'en vont. À gauche, il y a le paradis terrestre, hein, qui m'a l'air assez sympathique. Et puis à droite, on va vers l'enfer, et là, ça l'est moins. D'autant qu'il y a ce gros diable noir que je vous montrais tout à l'heure, qui est vraiment épouvantable. Donc le noir, c'est la couleur du mal, de l'enfer, de Satan. Donc vous voyez que, décidément, cette ambiguïté du noir, elle est profonde. Hein. On a vu que le noir était la couleur chic et chère des grands princes. On a vu que le noir était la couleur de l'humilité d'un certain nombre d'ordres monastiques d'obédience catholique. On a vu que pour les protestants, n'est-ce pas, le noir, Luther oblige, hein, c'est la couleur du péché, de l'humilité. Et voilà que ça devient la couleur du mal, hein, du mauvais, de Satan. Donc on voit bien, n'est-ce pas, qu'il y a dans le noir un panorama, un éventail de valeurs possibles. Et Frangelico n'est pas le seul à avoir représenté des monstres noirs. Hein. Voilà, par exemple, hein, c'est quelque chose ça aussi. Hein. Une œuvre de Giovanni da Modena. Alors, vous le voyez en petit, là je veux vous le montrer en grand. Hein. Alors, c'est vraiment épouvantable. Hein. Alors si le noir, c'est pas la couleur de Satan, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Une œuvre quand même extraordinairement puissante. Hein. Vraiment, le noir, c'est le mal. On n'a pas du tout envie d'aller en enfer. Hein. Puis Satan n'est pas le seul. Hein. Il y en a plein d'autres, le diable noir. Hein. Bon, on passe très vite parce qu'on ne veut pas avoir des cauchemars ce soir. Alors. Voilà, c'est la mort. C'est le deuil. Hein, le deuil. Ça représente. Alors d'abord, là aussi, toujours la question, c'est quoi ça comme objet? Alors c'est pas un panneau. Non. C'est pas un morceau de table.
C'est du papier, on voit des textes.
Oui. C'est une enluminure. C'est aussi une enluminure. C'est une enluminure. Hein. Voilà. Et cette enluminure que vous voyez là, elle représente effectivement une cérémonie d'enterrement. Hein. Et donc, le noir, il est présent pour des raisons évidentes, d'ailleurs on l'a dit déjà. Hein. Donc c'est la couleur du deuil. Est-ce que le noir a toujours été sématiquement la couleur du deuil?
Non.
D'ailleurs, vous savez que dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours le cas.
Non.
Oui, absolument. Hein. Le noir peut être effectivement avoir une couleur favorable. Et quelles sont d'autres couleurs pour le deuil que le noir, par exemple?
Le blanc. Hein.
Pourquoi dire le blanc? Voilà. Alors en Asie, le blanc est une couleur funéraire. Hein. Elle a été longtemps, d'ailleurs, en France aussi, par exemple, enfin en Occident. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le blanc, lui, encore, c'est pratique. Le blanc, c'est vraiment une couleur ou une valeur dont le sens est toujours le même, de manière indéfectible, quelles que soient les cultures. Enfin, je veux dire, ça marche toujours. Ça, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas à se poser de questions avec le blanc. Le blanc, qu'est-ce qu'il évoque?
La pureté.
Et puis quoi encore? L'enfance, l'innocence. Hein. D'ailleurs, si Saint-Dominique, notre chien de Dieu de tout à l'heure, se vêtait de blanc et de noir, c'est une combinaison d'humilité et d'innocence en même temps. N'est-ce pas, hein. Et longtemps, notamment les femmes, étaient enterrées en blanc, n'est-ce pas, hein, complètement en blanc. Le blanc a longtemps été la couleur du deuil.
Les sueurs
étaient blancs. Pardon.
Au Portugal, les enfants sont enterrés en blanc.
Mais voilà. Donc le blanc est une couleur de deuil. Vous avez une idée peut-être de quelle cérémonie de deuil il s'agit?
C'est une reine, apparemment.
C'est une reine, effectivement. Hein. C'est une reine. Vous n'avez pas l'idée de la reine en question.
C'est Jeanne de France?
Non. C'est Anne de Bretagne.
Hein?
C'est l'épouse de... Enfin, elle a été deux fois Anne de France. Hein.
Oui, oui.
Elle a été l'épouse de Charles VIII et l'épouse de Louis XII. Et donc, voilà. En fait, c'est... j'allais dire, au début du XVIe, hein, et ça correspond grosso modo au funérail d'Anne de Bretagne, que la couleur noire va devenir, en tout cas en France, et ça va être, ça va se répandre en Occident, la couleur du deuil, j'allais dire la couleur officielle du deuil. Hein. Le noir devient la couleur du deuil. Alors c'est peut-être lié d'ailleurs à certains éléments qu'on a dit avant, hein, qui sont lesquels par exemple. Qu'est-ce qui fait que le noir s'impose un peu définitivement comme la couleur du deuil? Qu'est-ce que... Voilà, alors voilà. Bah, voilà, c'est tout ça. C'est à la fois la couleur de l'austérité, de l'humilité, etc. On arrive devant Dieu, on doit être humble, hein. Mais c'est également la couleur chic du prince, hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est une couleur double, décidément. Finalement, cette ambivalence qui semble aller dans deux directions différentes, quelque part, elle se rejoint avec le deuil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le deuil, le noir est une couleur finalement qui va très bien. C'est la couleur d'une certaine noblesse de l'être, hein, une couleur princière, chic, chère aussi. Hein. Et c'est une couleur qui est celle de l'humilité, de la neutralité, en quelque sorte. On est humble devant celui qu'on va rencontrer, c'est-à-dire Dieu. Hein. D'où le fait que le noir devienne cette couleur-là. Ah, une vierge noire. Une vierge noire.
Ah.
Une drôle de vierge noire.
Non, non, non.
Moi, je la trouve un peu... Une reine. Une reine. C'est effectivement une reine. Alors, la vierge, c'est souvent une couronne. Hein. C'est la reine. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit trop vierge. Si. Hein. Que ce soit la vierge, d'ailleurs. Hein. Elle m'a l'air assez...
Oui, mais...
En délurée, je ne sais pas, mais enfin, elle est charmante, elle a un déhanché, là, très élégante, puis elle a des franfralus quand même.
C'est vraiment du Moyen-Âge ?
C'est du Moyen-Âge,
oui. Oui, mais alors, on ne connaissait pas les Noirs, ou aussi peu.
Ah, that is the question.
On les connaissait fort peu.
Ah, c'est bien, alors, on les connaissait quand même, mais effectivement, pas beaucoup. Alors, on les connaissait via, justement, certains vecteurs. Via
reine de Saba.
Ah,
voilà.
La reine de Saba.
Ah oui.
C'est la reine de Saba. Celle que vous avez ici n'est donc pas une vierge, enfin une représentation de la Vierge, c'est la reine de Saba. Vous pouvez nous rappeler en deux mots la reine de Saba?
Elle vient voir Salomon.
Elle vient voir Salomon. Voilà. Hein, elle vient voir Salomon. Et la reine de Saba, c'est qui? Elle vient d'où?
L'Éthiopie.
Elle vient grosso modo d'Éthiopie. Ah oui, on a beaucoup de mal à situer le royaume antique de Saba. Hein. Bon, d'autant que c'est une reine peut-être largement légendaire. Alors voilà, Éthiopie, Yémen. Il y a plusieurs possibilités hein, quant au lieu d'origine de la reine de Saba. Hein. Donc cette reine est en effet venue voir Salomon. Hein, c'est la fameuse rencontre de Salomon et la reine de Saba. Et quelle était la caractéristique de la reine de Saba? Il en avait plusieurs d'ailleurs, mais quelles sont les caractéristiques de la reine de Saba? Pardon, elle est belle. Elle est riche. Elle est riche pourquoi?
Pays de l'or.
Pays de l'or. Hein. Le pays de Saba est un pays d'or. D'ailleurs, vous voyez, hein, elle a des objets en or autour d'elle. Elle est riche. Hein. Elle est belle. Elle est riche. Elle a une autre caractéristique?
Elle est puissante.
Elle est puissante. Entre Jean Puissant, Salomon, la reine de Saba, on sait 100 ans.
Mais elle n'a pas une qualité de crainte de Dieu.
Elle l'a ou elle ne l'a pas?
Je crois qu'elle craint Dieu.
Ah oui, elle est effectivement, elle craint Dieu. Hein, donc elle peut d'autant plus rencontrer Salomon qu'elle a, j'allais dire, une propension à pouvoir s'entendre avec lui sur le plan religieux. Et puis elle a une autre caractéristique.
Elle est noire. Oui, oui.
Elle est noire. Donc voilà une noire, j'avais presque dit, on a une noire chrétienne avant l'heure. Hein. On ne pourrait pas dire ça. Pardon? Non, on ne voit pas le visage parce que. Alors il en a un, hein, mais l'image est plus ou moins bonne. Mais Elle a normalement un visage, elle a un nez, une bouche, et voilà.
On voit les yeux.
Mais là, la photo a un peu enterré tout ça. Quel est l'intérêt de représenter, cette œuvre date de la fin du Moyen-Âge, hein, à la fin du Moyen-Âge, la reine de Saba. Quel est l'intérêt de cette figure ? Après tout, bon, c'est une sympathique reine exotique, qui est jolie, qui est riche, qui a des dorures, voilà. Mais quel est l'intérêt pour l'Occident médiéval de représenter, de s'intéresser à la reine de Saba ?
Les croisades, ça s'étend.
C'est un rapport avec les croisades, ouais. Et lequel ?
La chrétienté s'étend partout, même jusque dans les contrées lointaines.
Effectivement, c'est-à-dire que la chrétienté s'étend partout, même dans les contrées lointaines. Puis il y a un intérêt avec la reine de Saba, d'ailleurs, par rapport à l'implantation de la chrétienté.
Et Sainte-Marie-la-Mer.
Alors ça, c'est vraiment autre chose, hein. Mais les Saintes Marie de la Mer, c'est Sainte Madeleine, etc. Marie Salomé.
Non, mais c'est le Nouveau Testament, ça.
Donc c'est plutôt lié à Lazare et à une série de légendes du Nouveau Testament. Mais là, donc notre reine de Saba, qui montre évidemment, qui incarne le fait que le christianisme, c'est pas en gros que l'Europe occidentale, mais que c'est ailleurs. Et ça, quel intérêt par rapport aux croisades et à l'ennemi de l'Occident dans la croisade ?
Ça étend le catholicisme.
Ça étend le catholicisme, mais l'intérêt, c'est que ce catholicisme-là, ce christianisme-là, pourrait-on dire, il s'étend à quel endroit ? Alors, plus qu'au Moyen-Orient, mais parce que Éthiopie, Yémen, voilà, l'Afrique, c'est-à-dire au revers des territoires musulmans, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que, en quelque sorte, les musulmans sont pris en revers, vous voyez ce que je veux dire, hein. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une autre figure, plus ou moins mythique, hein, qui, au Moyen-Âge, était censée être à la tête d'un grand royaume chrétien dans ces territoires, parce que la reine de Saba, c'est une reine antique, hein. Mais au Moyen-Âge, on pense qu'il y a une sorte de descendant de la reine de Saba qui incarne cette sorte de puissance chrétienne en Afrique noire. C'est qui ? Un personnage mythique dont on peut penser qu'il a existé peut-être pas. Enfin, il y a des arguments dans les deux sens. C'est un homme qu'on appelle le prêtre Jean.
Ah oui.
On dit qu'il y a quelque part en Afrique noire, hein, le prêtre Jean, qui est un grand roi, à la tête d'un empire extraordinaire, hein, et qui est un prêtre, enfin, qui est un roi tout à fait chrétien, hein, qui serait une sorte de descendant de la reine de Saba. Donc la reine de Saba, elle est importante parce qu'elle incarne tout ça. Hein. Elle incarne bibliquement ce lien avec Salomon. Elle craint Dieu, donc elle est plus couverte à la religion révélée, si vous voulez. Elle est riche, elle est élégante, elle est intelligente, elle est belle, enfin elle a toutes les qualités. Hein. Et elle est l'ancêtre de ce royaume du prêtre Jean. Et elle est noire, d'où le fait que le noir entre aussi, si vous voulez, au Moyen-Âge, par cette porte-là. Donc la reine de Saba, elle porte, si j'ose dire, une couleur importante. Hein. Voilà donc, hein, cette œuvre, une œuvre allemande du XVe siècle. Hein. Ça. Encore un personnage noir. Vous voyez que le noir s'invite. Le noir, l'homme noir ou la femme noire, hein, mais aussi sa couleur. Hein. Donc voilà aussi une entrée de la couleur. Hein. C'est qui ce personnage noir ? C'est un saint. Il a une auréole, c'est un saint. Mais quel saint ?
C'est pas Saint-Georges.
C'est pas Saint-Georges. Mais c'est vrai qu'il a une armure qui nous ferait penser à Saint-Georges qui a combattu le dragon. Pardon ? Il n'était pas noir, Saint-Georges. Mais il y a un saint noir. Pas saint Augustin.
Ah non.
Même s'il était originaire d'Afrique du Nord. Pas d'idée ?
Non.
Oh, c'est un saint très connu. Très connu. Maintenant, c'est un prénom qu'on utilise moins, mais qui était très très à la mode en France au XXe siècle. Pardon ? Maurice, absolument. Absolument. L'abbaye Saint-Maurice. Saint-Maurice d'Agone. L'abbaye Saint-Maurice d'Agone, qui possède un trésor absolument extraordinaire. On en a parlé sous d'autres cieux. Vous étiez peut-être là quand on en a parlé, non hein? Voilà. L'abbaye Saint-Maurice d'Agaune a un trésor de fait extraordinaire. Et Saint-Maurice, quelle est la caractéristique de Saint-Maurice? C'est qu'il est noir. D'ailleurs, s'il s'appelle Maurice, ah oui. C'est que c'est un mort. Et les morts, ils sont noirs. Et Saint-Maurice, il est le patron de qui? Il est le patron de deux corporations.
C'est pas lui qui était le patron des soldats.
Si, il était le patron des soldats. Il a été le patron d'une légion qui a été décimée à Saint-Maurice en Suisse, justement. Hein? Donc, effectivement, il est patron des soldats, précisément des chevaliers. Voilà. Alors, au Moyen-Âge, l'Antiquité étant passée, si j'ose dire, il va devenir le patron des chevaliers. Hein? Donc, Saint-Maurice est le patron des chevaliers et le patron d'une autre corporation qui nous intéresse spécialement ici.
Des
forains. Pas des forains. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'était une idée, ça. Oui. Alors, pas des forains.
Mon association, c'était parce qu'il y a une fête à Lyon, la Saint-Maurice.
Ah.
Et il me semblait que c'était que les forains étaient liés à Saint-Maurice.
Ah, ben, remarquez peut-être aussi.
Je ne sais pas. Hein,
oui. Ah, bon, ben, écoutez, on regardera. On regardera. Mais en tout cas, il y a une autre corporation qui se réclame de Saint-Maurice. Ce sont les teinturiers.
Pourquoi?
Couleur noire, couleur. Voilà. Donc c'est assez amusant. Voilà. Donc vous avez là un tableau d'un artiste qui s'appelle Matthias Grunewald. Vous le connaissez.
Hein,
celui qui a fait le fameux retable d'Isenheim, hein, qui est au musée d'Unterlinden de Colmar. Hein, vous connaissez ça. Par parenthèse, il y a une autre figure à la fois, si j'ose dire, très religieuse et noire, qui est importante à la fin du Moyen-Âge. On a parlé de la reine de Saba, on a parlé de Saint-Maurice. Voilà deux figures noires qui font rentrer la couleur noire dans, je dirais, le panel coloré de l'Occident, mais il y a un autre noir religieux.
Mais une Vierge noire.
Alors, il y a souvent la Vierge noire. D'ailleurs, souvent les Vierges noires, vous savez qu'elles sont noires, pas toujours parce qu'elles étaient noires à l'origine, hein, oui. Mais parce que les cierges brûlants, etc., font que petit à petit, elles sont devenues noires. Hein. Le fait qu'on les ait appelées les Vierges noires, hein, parce que ce sont des Vierges vénérables qui datent quelquefois des 11e, 12e siècle. On a fait brûler mille choses. Elles sont patinées, elles sont devenues toutes noires. Alors c'est vrai que les vierges noires vont avoir une espèce de qualité particulière. Mais il y a une autre figure noire importante dans cet Occident chrétien du Moyen-Âge. Eh bien voilà, trois mages. Hein. Trois mages. Je vous montre d'ailleurs ici. Hein. Je vous montre un autre Saint-Maurice, j'avais oublié celui-là. Hein. Celui de la cathédrale de Magdebourg. Hein. Voilà. Donc Saint-Maurice, il est souvent présenté. Hein. Et voilà un tableau de Hugo van der Goes, qui est présent, mais vous en avez des quantités, hein, une nativité, à droite, vous avez le roi noir. Alors, je ne sais jamais si c'est Balthazar ou Gaspard. Bon, ben, vous non plus, enfin, ça, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Enfin, c'est l'un des deux. C'est pas Melchior, en tout cas. Je dirais que c'est Gaspard, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être Balthazar. Non, c'est un noir clair, mais voilà. Hein. Voilà. Alors, on a vu le noir. Je voulais qu'on aborde le rouge, mais il est déjà très tard. Moi, je vous propose, parce que je trouve que ce n'est pas non plus la peine de charger trop la boutique, qu'on s'arrête là. De toute façon, le Moyen-Âge va être pour nous un moment important, hein, par rapport aux couleurs. Vous avez vu à quel point, rien que pour le noir, on arrive à avoir des tas de choses. Donc, je vous propose qu'on garde le rouge pour la prochaine fois. Ça vous va? Eh bien, alors, Félix, je dis un bonne soirée.